Le pire réveil matin, Samuel Etienne, tu l'écoutes, le matin, tu te rendors. Ah, comment ça va vous? Désolé, je suis un petit peu en retard, j'avais annoncé 9h, il est... Waouh, presque 9h, il est 9h56, c'est-à-dire c'est quasiment à l'heure, presque. Comment ça va? Rafifou a eu un petit coup de cœur pour la une de Libé, ça tombe bien, on va lire les journaux. Ça va vous? Ça va, je suis content de vous retrouver. Pourquoi on a supprimé mon message, je disais une blague, Oranieri. Je ne sais pas, je vais voir ton historique. Aurélien qui n'a jamais été banni. Ah non, c'est parce qu'en fait, tu as tout écrit en majuscule. Et Nightbot, donc mon petit modérateur robot, contrairement à Captain McBernick, Julo 18, MMG7F, Original Pimous et Sarah Molly ce matin, qui sont des humains et de beaux humains, eh bien, tu as banni parce que c'est en capital. Ouais, c'est que quand il y a trop de capital, ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il n'aime pas trop. Comment ça va? Vous, je vois que certains ont passé la nuit dans un bus à cause de ce qui s'est passé au niveau de la grève de l'Eurostar. Je vois que certains préparent Questions pour un champion, enfin, sont passés à Questions pour un champion. Il y a quelqu'un dans le chat qui me disait que je passe, enfin, moi je passe, c'est normal, c'est tous les soirs, mais que tu passes ce soir à Questions pour un champion. Oui. Et quelqu'un qui lui répondait, bah, t'as eu de la chance parce que moi j'ai attendu 2 ans entre le moment où on m'a sélectionné et le moment où je suis passé. D'ailleurs, je pense à quelqu'un qui a un rôle très important dans cette chaîne, qui justement attend d'être appelé par l'équipe de sélection pour passer les sélections et ensuite venir. Donc voilà un exemple. Parfois, il faut attendre 2 ans, parfois plus. Pourquoi ? Parce que le monde entier veut, alors non pas venir jouer à Question pour un champion, c'est pas si un peu, mais le monde entier veut venir me voir. Non, c'est pas vrai. Non, ben non, les gens. Non, alors pardon. Ah non, je voulais pas dire Rayou. Ah non, c'était pas un leak. Non, c'est quelqu'un qui connaît très bien cette chaîne. Voilà. Je sais pas s'il l'a annoncé officiellement. Mais c'est pas Rayou. Ouais. C'est pas Joe. Je suis pas sûr que Joe ait envie de jouer à Question pour un champion. Je sais pas. On le connaît, oui. Vous le connaissez. Mais je ne dis rien. Bon, ça va vous? J'aimerais bien retrouver le nom du. C'est The French. Est-ce que c'est The French Museur qui passe ce soir? Ou toi, tu es déjà passé? En tout cas, sachez que quelqu'un dans le chat passe ce soir à Question pour un champion et connaît donc déjà son résultat, puisque l'émission, en général, est enregistrée 1 mois ou 2 mois avant. Quoi? Dit notre ami SDFLJSDKLFSLK. Je crois que j'ai oublié aucune console. Quoi ? Macron a Question pour un champion. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai oublié une lettre ? Non, je crois que c'était bon, c'était OK. A priori, non. Ou alors, je ne suis pas au courant. French Yugio, merci beaucoup pour le soutien, pour ce 11e mois d'abonnement. Comment vas-tu ? Clamakin. Oh là là là. C'est, vous aussi, vous avez des petits virus d'hiver là. Clamakin, merci beaucoup pour ce 18e mois d'abonnement. AX Onigami, merci pour ce 4e mois d'abonnement. À part la déprime due au fait qu'on est passé dans un pays d'extrême droite, nous dis-tu ? Oh là là, ça lance les débats. Comment vont les gens ce matin ? Moi, ça va bien, sauf que je tout saute. Non, c'est pas le cigare, je ne fume pas, Boris. Je ne sais pas si c'est les virus ou quoi. Mon petit Solal a très mal dormi. Il tousse. Mon amoureuse aussi n'est pas très en forme. Il n'y a que Malo qui va bien. Anix Onigami, merci beaucoup pour le soutien. Maxou, merci pour le 5e mois d'abonnement. Tu as été le premier à sub. Et puis cette nuit, alors que nous dormions, que nous reposions pour la plupart, eh bien, El Slipo, le slip en VF, a pris un 5e mois d'abonnement. Vincent O, un 6e mois. Il y a toujours quelque chose à faire, un 3e mois. Les Todes, un 4e mois. À propos de maladie. Mon épouse se demande si elle n'a pas... c'est un médecin qu'elle a vu. Se demande si elle n'a pas attrapé la mononucléose. C'est pas la maladie du baiser, ça? C'est pas une maladie qui s'attrape quasiment exclusivement par un baiser, ça? Mononucléose, mono... Monoprix, non? Mononucléose. Si, c'est ça, on va y voir quand même. Transmet par la... Ah oui, par la salive, quand même, ouais. Ouais, ouais. Attends. Je suis sur le site de l'assurance maladie, alors c'est assez propre, quoi. Alors, tchouk. Voilà. Site Amélie. La mononucléose infectieuse, définition, transmission, symptômes. Maladie virale. La mononucléose infectieuse se transmet par la salive. Elle se manifeste notamment par une grande fatigue. Alors moi, j'ai ça, moi. Je suis crevé. Sachez qu'en ce moment, je me lève à 5h du mat, je lis les journaux et je me recouche. Je n'y arrive pas. Qui était juste, ce n'est pas le dernier stream de l'année. Loin s'en fout, je te rassure. Parce que qui était juste, qui t'inquiète. Grande fatigue, sagesse en ce moment. Une angine, une fièvre élevée. Non, j'ai pas d'angine, j'ai pas de fièvre. Du tout. J'ai pas de ganglion. Voilà. Toutefois, cette infection peut passer inaperçue. Bon. Comment on l'attrape ? La maladie du baiser. Le virus d'Epstein-Barr se transmet essentiellement par contact direct. Entre personnes, baiser et par la salive, projection de la toux par exemple. Ok. D'accord. Ok. On l'a beaucoup enfant, hein, celle-là. Hein. Mais maintenant, il y en a moins chez les enfants en raison du développement des mesures d'hygiène. Donc parfois, on l'a plus tard, adolescence. Moi, je l'ai eu, je crois. Moi, je l'ai eu. D'accord. Ok. Ok, 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 ok. Fais-toi presque un bilan sanguin, une petite carence ou autre. J'ai la... Me dit Big Badaboom très gentiment. J'ai l'impression de passer ma vie à faire des analyses sanguines, quoi. On ne peut plus. Puis à chaque fois, on... plus tu vieillis, plus on trouve des trucs. On dit, ah, mais monsieur Étienne, vous avez du diabète ? Faut arrêter de manger des gâteaux. Alors moi, j'ai trouvé la solution. Je fais plus d'analyse comme ça. Plus de problème. Je déconne. FB Fox, merci beaucoup pour le 5e mois d'abonnement. Comment ça va, vous? Psychosal, bonjour. Le sample avec Alex Click était incroyable. Merci à toi. Comptes-tu poursuivre dans le GTA RP? On s'est régalé avec Alex. Je ne sais pas si je vais ajouter GTA à la longue liste des jeux auxquels je joue. J'en ai déjà 4. Ça, c'est grâce ou à cause de vous, je ne sais pas. Et grâce ou à cause, je ne sais pas, de Samplay. On se régale en vrai. Donc peut-être, sachant qu'il faut absolument que je reprenne The Witcher parce que j'ai abandonné lâchement The Witcher au bénéfice de Valorant, auquel j'ai beaucoup joué ces derniers jours. Donc je dois à la communauté des amoureux de The Witcher 3, je dois un stream The Witcher 3 qui va arriver dans les prochains jours. Voilà. Alors, quand, je ne sais pas, puisque je pars demain pour une semaine en Franche-Comté, dans ma belle famille que j'adore. Et donc, du coup, je me demande, et ça c'est une question dont je voulais parler avec vous, essentielle, importante. Je me demande... Un, si je dois streamer un peu pendant cette semaine, moi j'ai bien envie, je pense que ça va me manquer. Deux, qu'est-ce que je peux streamer? J'ai pensé à plein de trucs. J'ai pensé par exemple à vous emmener courir avec moi, puisque je vais beaucoup courir. Aix Onigami est à Besançon. Je vais peut-être vous emmener courir avec moi, parce que j'ai prévu de courir. Prévu de courir, ça veut pas dire que je vais courir. Vous connaissez le principe? J'ai prévu de courir. Ça veut pas dire que je vais courir. C'est-à-dire que je vais prendre... mes affaires de running, je vais les mettre dans le sac. Hier par exemple, en ce moment il fait trop froid, je cours en salle, j'ai pris mon sac, j'ai mis mes chaussures, j'ai mis mon short, mes chaussettes, important, de running, mon t-shirt, mon short, voilà. Je suis allé à la salle et devant la salle, j'ai fait non, trop fatigué, je me sens un peu fébrile, pas super en forme, je suis retourné à la maison. Voilà, puis j'ai mangé une pizza. Voilà. Donc, j'ai prévu de courir en Franche-Comté. Est-ce que je vais courir? Ça, c'est la question, sachant qu'il va faire un peu froid. Bon, alors dans ce cas, je pourrais vous emmener courir avec moi en stream, ça, je l'ai déjà fait, notamment en Bretagne. Est-ce que j'aurai une connexion suffisante? Question. Est-ce que mon bras va tenir, puisque là, je ne vais pas emmener la poussette de stream, hein. Est-ce que mon bras va pouvoir tenir le petit bras stabilisateur, alors que mes petits bras sont devenus des petites allumettes, parce que j'ai arrêté le sport pendant 1h30, 2h, voilà. Bon, beaucoup de questions. Donc, est-ce que je stream de la course à pied? Est-ce que je stream du jeu vidéo? Alors là, dites rien à Hélène, dites rien à mon épouse, parce que là, je ne l'ai pas dit. Évidemment, je ne vais pas emmener le gros PC, tout ça. Là. Ah ouais, il faut que j'emmène la table de mixage quand même. Putain, ça va être lourd. Je vais faire un test après-midi. Je vais prendre mon PC portable avec lequel je streamais beaucoup avant, enfin tout le temps. Et je vais voir si mon PC portable, qui est assez compétitif en vrai, c'est Rayou qui m'avait dit lequel acheter, qui fonctionne bien, si mon PC portable peut faire tourner par exemple The Witcher en streamant. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Ou vous pensez que c'est même pas la peine? Est-ce que mon PC portable peut faire tourner Valorant? Auquel cas, j'emmène mon petit PC portable, la table de mixage, un petit écran supplémentaire. Je prends même pas de caméra, il y a une caméra intégrée, tu vois, on fait ça à l'arrache. Ça va chauffer, ça va chauffer. C'est un PC portable pas mal, hein? Valo, c'est quasi sûr que oui, me dit Onigemi. Ah. Outer Wilds, ça tourne, me dit Elysia. Ok. Compliqué pour Remake. C'est beau l'espoir, dit aucun. Valorant, ça tourne sur le PC de mamie, me dit Tarx. Prends un ventilo avec. Ah ouais, ça j'ai. Juste pour jouer, aucun problème. Peut-être pour streamer, Skyridge, peut-être compliqué. J'ai un vieux PC portable, Valo peut-être, mais pas The Witcher. Ah, The Witcher, non. Ok. Ah, peut-être, The Witcher, c'est très probable aussi, pas si gourmand que ça, me dit Onigami. Ouais. Bon, voilà. Bah attendez, non, mais c'est pas du boulot, hein. C'est du repos. Moi, je pense que. Qu'est-ce que c'est que ce magnifique raid de Nerd Factory? Mais merci, quoi. J'avais pas vu. Allons voir la chaîne qui vient très gentiment de nous raid et de nous envoyer plein de gens. Merci à vous. D'ailleurs, je te connais, je crois que je te suis déjà, parce que je pense que ce n'est pas ton premier raid. Ah oui, mais c'est le nouveau nom comment ça s'appelle? I am Sean Red, je savais que je connaissais. Voilà, c'est le nouveau nom de la chaîne de I am Sean Red. On est sur de l'actu tech, notamment avec l'excellente émission La Tech dans le cul. Est-ce que ça n'est pas un bon nom d'émission? La Tech dans le cul! J'adore. Vous avez parlé de quoi ce matin? De tech ou de. Pardon, excusez-moi. Je suis parti ailleurs. Vous avez parlé de quoi? Excusez. Je suis nul. Vous avez parlé de tech ou vous avez parlé de. Je suis nul. Il y a parlé de quoi? Non, alors si je. Vous avez parlé de quoi? Alors si je. De tech sans politique. De tech sans politique. Récap de l'année? Trop bien. Trop bien. Et on me dit que la cantine est là aussi. Salut, ami de la cantine. Donc si je stream là pendant la semaine de vacances, c'est parce que j'en ai envie, parce que j'en ai besoin, quoi. Donc je vais tester ça. Je vais tester ça. Je vais ressortir mon petit PC portable qui est à côté là. Je vais télécharger. Ils ne sont pas téléchargés. The Witcher 3 et puis Valorant et puis Fall Guys, tant qu'à faire. Et puis je vais voir s'il tourne. Peut-être, voilà. Et puis je vais revérifier toute ma connectique. Et puis dans ce cas-là, peut-être effectivement emmener. Voilà. Donc peut-être un stream de running. Pourquoi pas un stream de gaming, genre la nuit. La nuit dernière. Tiens, vous savez à quoi j'ai pensé la nuit dernière? La nuit dernière, petite insomnie, ça arrive. Donc on se couche très très tôt, tout le monde là. On prend les enfants avec nous, c'est un peu la fête en ce moment, c'est Noël. Donc petite soirée en famille bien cool. On se couche très très tôt, mais je pense qu'à 9 h, on est au lit, quoi. Et puis, le sommeil ne vient pas. Alors, je regarde une série sur Amazon, là, qui était sympa. Comment il s'appelle? Le gars qui fait 2 m 50, qui a des bras comme as, là, qui est un enquêteur militaire. J'adore ce gars-là. J'adore. Voilà, 3 nouveaux épisodes sont sortis, là. J'adore ce gars-là. Il est comme ça. Reacher. Donc, je regarde ça. J'adore cette série. Donc, je regarde Reacher, et puis le sommeil n'est pas venu, quoi. Je me suis tapé 3 épisodes, quoi. Et je me suis dit, ben voilà, j'aurais eu un petit setup léger de stream, pas ici dans le studio, voilà, je suis pas à la maison. À la maison, je me serais levé et j'aurais lancé un petit stream de gaming, quoi. Hein, pour retrouver. C'est le potentiel futur Batman. Putain, ah ouais, Reacher en Batman, putain, va falloir trouver de nouvelles combinaisons, hein. Parce qu'il est, il est costaud comme 2 Batman normaux, hein. Je sais pas si vous voyez le bébé, quoi. Voilà. Donc si j'avais eu tout ça, bah, j'aurais lancé un stream de gaming. Donc voilà, je me suis dit ça. Peut-être que justement de tester ce PC de portable en configuration gaming, ça pourrait être rigolo, quoi. Il a une sacrée carrure, dit Benny la crevette à propos de moi. C'est vrai. C'est vrai que je suis un beau bébé. Merci de l'avoir remarqué. Et peut-être que tu parles de Richard, du coup. J'ai un doute. Bon, peu importe. Donc peut-être des streams de course à pied, peut-être des streams de gaming, oh, pas de stream de revue de presse, on va pas s'emmerder avec l'actu, hein, ça va. Hein? Faut que j'arrête de tousser. Et puis peut-être, j'ai une idée, j'ai jamais, en 3 ans de stream sur cette chaîne, j'ai jamais lancé de stream en mode allez, je lance, et on cause. J'ai jamais fait ça. Hein? Je lance et on cause. Voilà. Et je réponds aux questions. À toutes les questions. Voilà. Jamais fait ça. Putain. C'est rien, c'est mes poumons. Ils sont un peu irrités. Jamais fait ça. Alors, on pourrait appeler ça la discussion Étienne, comme dit petite Elena. On pourrait appeler ça Sam cause. Ah, c'est pas mal. Attendez, il faut que je prenne des photos là. La discussion Étienne, Sam cause, pas mal tout ça. C'est les captures d'écran de mon époque. Ça me parle, ça me parle. Ouais. Ouais. Ça me répond. Ça me parle, c'est top. Ah, sinon, j'avais pensé, pour une fois, j'avais pensé à un autre nom tout seul. On pourrait appeler ça. Puisqu'il s'agirait de répondre à vos questions, d'accord ? Sam GPT. C'est moi, j'ai trouvé tout seul. Je m'applaudis. Sam GPT. J'ai trouvé que c'était drôle. Comment ça, ça se voit, Onigami, ça se voit que tu l'as trouvé tout seul. C'est drôle, non ? C'est pas drôle ? C'est pas mal. Sam GPT. Ah ouais, pas plus que ça, pas plus. Pas plus d'enthousiasme. Salut David. Non, revue de presse. Non, c'est drôle, mais ça me parle, c'est mieux. Oh, encore, ouais. À quand l'émission, ça me saoule. Ça m'emmerde. Ah, ou alors on donne pas de Metal Times, si c'est pas la peine d'avoir un nom d'émission, c'est de l'impro. Ça me dépasse. Ça peut être samedi aussi, le samedi, mais ça marche que le samedi, quoi. Ou alors une collab Samsung. Genre, je lance un stream, je l'appelle Samsung, je demande rien à Samsung et après je leur envoie la facture. Je leur dis, bah voilà, hier j'ai fait un stream Samsung, voilà, vous me devez de l'argent. Ils vont être contents. C'est en Corée, non ? C'est sud-coréen, non ? Samsung. Hein, c'est sud-coréen, non ? Comment ça, c'est moi qui vais leur devoir de l'argent ? Ah, vous pensez que le Jupiter, c'est avant la Ventoline ?
Je fais les deux.
Il y a un ordre ? Je pense qu'il y a des médecins, des pharmaciens dans le chat qui savent ce que j'ai en plus. Tu crois que c'est avant ? Il faut attendre. Ah, c'est avant ? Ah zut. Ah, c'est pas grave. On est en ASMR maladie. Ok. Donc je note que normalement c'est le Jupiter en 1. Ok. Moi je faisais. Avant je faisais ça et puis je me suis mis à improviser, mais peut-être qu'il faut pas improviser. En tout cas ça va mieux. Vous avez vu ? Voilà. C'est rien, c'est les poumons qui sont irrités. En vrai c'est la pollution. Je suis sûr que les quelques jours que je vais passer en Franche-Comté, dans quelques jours. Il y a Alexandra qui dit que qu'on voit plus mon gros ventre et que j'ai peut-être perdu du poids. Merci, Alexandra. Non, c'est juste parce qu'en fait, j'ai un sweat un peu large, mais il est toujours là, le gros ventre. Ouais. Alors, Captain America dit, idéalement, il faut se laver la bouche juste après, sinon ça peut donner des petits champignons. Le corticoïde local, là. Jean Moncy dit, il n'y a pas d'ordre, la ventoline ouvre les bronches, prends-le en premier. Eh bien, c'est exactement ça. Voilà. Donc, du coup, je vais me faire un petit bain de bouche, mais je vais couper le micro. Parce que ça, c'est vraiment atroce. Bougez pas. Bain de bouche au café, qui fait ça ?
Moi.
Résultat, pas de champignons, une bouche bien lavée et un délicieux goût de café dans la bouche. J'ai la meilleure vie. Elliot Du, merci beaucoup pour ce soutien. Manu79 aussi pour ce 7e mois d'abonnement. Nerd Factory, merci encore pour le raid. Mélissa, j'avais pas vu, merci pour les beats et merci pour le message. Bon bah on est bien, hein. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que ça n'est pas le dernier stream de l'année et que j'espère bien la semaine prochaine, mais ne le dites pas à ma femme, qu'il y aura peut-être du stream running en Franche-Comté, dans la nature, voilà, avec un bon air, pas l'air parisien. Merci Mister Max Quaver pour les beats. Peut-être du stream gaming, ça va dépendre de la config et du fait que j'arrive ou pas à cacher à mon épouse la petite valise dans laquelle je vais planquer tout ça. Vous voyez la scène, demain matin, on prend le taxi pour aller à la gare, tout ça, pour aller en Franche-Comté. Hélène a tout prévu au niveau des valises, comme d'habitude, c'est la championne des valises. Et puis, hop, oh, une petite valise en plus. Tiens, je ne l'ai pas préparée celle-ci. T'as pris une petite valise en plus, mais t'as déjà toutes tes affaires. Non, t'inquiète. T'inquiète. Et là, au moment où tu dis t'inquiète, votre amoureuse sait, parce qu'elle vous connaît par cœur, elle sait ce qu'il y a dans la valise. Elle sait dans le t'inquiète faussement détaché et dans la petite lumière d'affolement dans les yeux, elle sait ce qu'il y a dans la valise. Elle sait que dans la valise, il y a un PC portable, il y a un truc pour refroidir, il y a un ventilo là, il y a un écran, il y a une table de mixage, il y a tout le câblage, elle le sait, elle le sait. Et vous savez, eh bien, elle dit rien. Elle dit rien, c'est ça l'amour, elle fait. Elle fait même pas... Pff, non. Elle dit rien. Et puis toi, tu te dis, non mais t'inquiète, c'est au cas où. Je sais pas, je pense pas que je vais streamer en vrai, mais on sait jamais quoi. Ouais. C'est beau l'amour. Bon, quelqu'un me dit, bah alors, quand est-ce qu'on lit les journaux? Je vous rappelle qu'ici, on a le droit à 30 minutes d'introduction, et cela ne fait que 27 minutes et 43 secondes que nous sommes ensemble. Donc, on est largement dans les temps. Tu as la même femme que moi, Samuel. On a trop de chance en vrai, dit Guillaume. Je ne sais pas comment prendre cette phrase. Comment ça, on a la même femme, c'est-à-dire. Toi aussi, t'as la mononucléose, du coup, ou... C'est chaud, quoi. Ton message est bizarre. C'est la même, ou... La même. Oui, Cantal, je sais, pour la garde de Lyon. Alastair, la même aussi. Non, c'est pas le P de Paris, c'est pas le P de... Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire. De papy, c'est le P de papa. Bon, les amis, il est l'heure. 28 minutes 41, let's go. Petite revue de presse. Petit Valorant derrière de détente. Peut-être, c'est pas sûr. On n'a pas 1000 articles ce matin. En ce moment, je privilégie la qualité, l'essentiel à la quantité. Et puis après, je vous les abandonnerai pour voir si je peux emmener un peu de setup en Franche-Comté pour éventuellement faire du stream léger de gaming. On va voir. La nuit, quand tout le monde dort. Je suis désolé, hein. Vous aussi, vous êtes malade ou quoi? Je fais un petit sommaire pour commencer, pour vous dire ce dont on va parler ce matin. Mais je pense que vous vous en doutez, en fait, puisque c'est un peu des évidences, il y a un peu des choses qui s'imposent à nous. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs, bande de belles personnes, bande de décembriers, c'est-à-dire les gens qui vivent en décembre, hein, c'est vous. Tain, j'ai vu que c'était l'équinoxe, là, et c'est-à-dire que les jours commençaient à rallonger, là. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour un sommaire, pour vous... Morgane de Toi est prête pour que je vous donne l'essentiel, la substantifique moelle de l'actualité en 2-3 minutes avant de développer tout ça. Vous êtes prêts? Ok, ça fait longtemps qu'on n'a pas dit yes. C'est pas un équinoxe, c'est le solstice. Ouais, c'est ça, je suis nul. Pardon, MMG. C'est pas l'équinoxe, c'est le solstice d'hiver, c'est ça que je voulais dire. Solstice, merci. Merci Gandalf.
Yeah, baby!
Oh, on a plein de yes différents dans cette petite boîte. C'est pas une boîte à meufs, c'est une boîte à yes. Et on est tombé sur le meilleur. Electrip 45 qui dit, si tu es malade, nous avons des chambres d'accueil tempo disponibles dans mon unité. Eh bien, écoutez, la France médicale est à mon chevet. Que voulez-vous demander de plus? Eh bien, moi, je dis un sommaire. C'est parti. Dans l'actualité ce matin, il y a ceci. On parlait de train. Je vais prendre le train. J'aime le train. C'est mon moyen de transport favori. Pas de fatigue. Pas de risque, pas de danger, par rapport à la voiture, j'entends, voilà. Les enfants peuvent jouer, bouger, jouer aux cartes, vivre leur vie. Ouais, j'adore le train, j'adore le train. Et puis, écologiquement, c'est vraiment top, quoi. Donc le train, c'est top, j'adore le train, mais le train, c'est cher. C'est cher. Et on en parle très souvent, et souvent vous me le dites, et le train c'est cher, c'est pas normal, ça coûte un bras, ça coûte deux bras, non, trois bras, la plupart des gens n'ont que deux bras. Voilà. Et donc le Parisien nous fait un dossier là-dessus. Au début je me dis, avez-vous payé le juste prix ? C'est la question de savoir si pour les vacances de Noël, puisqu'on ne paye pas tous le même prix en fonction des cartes de réduction, en fonction du moment où on réserve, si on réserve au dernier moment ou il y a très longtemps, on ne paye pas le même prix. Donc sur le coup je me dis, ouais bon d'accord, le Parisien va nous expliquer comment... Le petit dossier un peu pas très surprenant. Alors, pour faire des économies, il faut réserver super tôt, papapap. Ok. Non, bien mieux que ça. Là, c'est vraiment un coup de projecteur sur pourquoi ça coûte cher, quoi. Alors, est-ce que ça coûte vraiment cher ? Tu vois, à l'instant, il y a Jouz qui dit en Suisse, c'est encore plus cher, frérot. J'adore qu'on m'appelle frérot, j'ai l'impression d'avoir 17 ans, quoi. J'adore ça. Donc, est-ce que c'est vraiment cher ? En tout cas, on est très nombreux à le dire, à trouver ça très cher. Et on a un édito de Marie-Christine Tabet, qui est directrice adjointe de la rédaction du Parisien, qui est à gauche, là, et qui dit, c'est dommage quand même. On nous dit que c'est le moyen de transport idéal, notamment pour faire baisser nos émissions de CO2 liées au transport. Et pourtant, y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le train parce que ça coûte trop cher, quoi. Donc, on va se pencher là-dessus. On va se pencher sur le prix. On va voir que c'est, ouais, c'est cher. Et on va voir aussi pourquoi c'est cher et une histoire d'entretien et de réparation du réseau. La SNCF doit contribuer à ça, voilà. Et c'est ça qui fait que c'est cher et que la SNCF, du coup, ne peut pas investir dans des rames. Et donc, les trains se remplissent très vite, ça coûte très cher, etc. Donc, on va se pencher là-dessus. Kim dit c'est mieux l'avion. Pas pour la planète. Kim, look at me. Look me in the eyes. Look me. The plane. Arrête de parler. Je ne sais pas parler anglais. Pour la planète, c'est pas... Hein ? Tu vois ? Le TER n'est pas cher, mais le TGV est très cher. C'est ça. Le TGV est très cher. Ouais. On va se pencher là-dessus. Alexandra sera en live demain à 15h. C'est noté, Alexandra. Alors, hier, et vous avez eu raison, j'ai enlevé ma casquette parce que je n'ai plus froid, ça y est. Hier, et vous avez eu raison, alors qu'on abordait les déclarations du président Macron sur ce fameux projet de loi sur l'immigration, vous avez été très nombreux à me dire « Hey Samuel, tu voudrais pas nous parler aussi de ce qu'il a dit sur Gérard Depardieu ?» Et c'est ça, c'est mon compresseur d'Aframie, tu crois que mon compresseur... Tu crois que c'est parce que... Je sais que parfois, sur certains... Pas chez tout le monde, mais chez certains, il y a trop de graves dans mon micro, notamment les gens qui ont des casques de super qualité. Ah, ce serait mon compresseur. Alors, le problème, c'est que là, le compresseur, j'ai 1, 2, 3, j'ai 5 variables sur mon compresseur, je ne sais pas laquelle. Bouger. Ouais. J'ai threshold, ratio, attack, release, gain. Ah, c'est peut-être le gain. Je ne sais pas. Bref. Et donc, hier, vous avez été très nombreux à me dire, on viendra là-dessus, sur les graves du micro. Merci Armel Rose pour ces 2 ans déjà. Merci à toi. Et vous m'avez très nombreux à me dire, ça, il faut revenir sur ce qu'il a dit sur Depardieu. Je dis, ah, ok. Et on est allé voir des articles. Et effectivement, on en a parlé assez longuement. Et puis, je vous ai dit, en faisant une recherche sur Internet, ne pensez pas que les médias passent ça au second plan. Il y a beaucoup d'articles sur Internet, de médias traditionnels, sur... les déclarations du président Macron sur Depardieu. Et ce matin, eh bien, vos journaux en parlent dans leur édition papier, dans leurs éditions papier. On a une pleine page dans Le Parisien qui donne notamment la parole à des féministes qui parlent, vous le voyez, d'un crachat à la tête des victimes, hein, dans le choix des mots choisis par donc le président Macron. Et vous avez carrément la une de Libération là-dessus. Macron défend Depardieu, sa préférence nationale, ne cherchez pas Libération, c'est les meilleurs là-dessus, sur les titres j'entends. Alors ça fait plaisir parce que Coco, c'est la dessinatrice de Libé, c'est la première fois qu'une femme devient la dessinatrice en chef de Libération, hein. Ça s'est passé il y a 2 ans, je dirais. Coco, qui travaille aussi pour Charlie Hebdo, qu'on a reçu ici dans la rencontre Étienne, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'est pas souvent que le dessin fait la une. Le dessin est souvent plus loin dans le journal. C'est sa place habituelle dans Libération. Et là, le dessin de Coco est en une. Et c'est un très beau dessin. Voilà. Avec nos amis Depardieu et Macron. un petit week-end un peu amoureux, quoi. Week-end bucolique avec un chef de l'État qui s'assoit manifestement sur une pancarte hashtag MeToo. Donc dossier 1 dans Libération, ne cherchez pas, Libération c'est les meilleurs sur les titres. On parle beaucoup de la présomption d'innocence, c'est le président Macron qui a beaucoup parlé de la présomption d'innocence. Libération préfère parler de la présomption d'indécence du chef de l'État. Ah, j'avais pas vu le nez. Il y a Gazon qui me dit le nez est incroyable. Il y a Alastair qui dit on dirait un zizi ce nez. Je n'avais pas vu. Et quelqu'un répond c'est voulu. Ben j'avais pas vu. Effectivement, ce nez ressemble. Et là je me dis putain le ban. Eh bien ce nez ressemble à un nez. Putain le ban. Ce nez ressemble à un nez. Hop voilà c'est un nez. On est sur Twitch. Bon. Alors, le président Macron, décidément, a les honneurs de la presse. Que dis-je ? C'est un péninsule, c'est un cap, vous l'avez. On a le droit, maintenant, non, ça a rechangé. Il y a ce qui dit, oh, on a le droit, Twitch a changé sa politique en matière de nudité. C'est vrai, ça a duré 24 heures. Ils ont changé, et on voit que c'était super intéressant, et moi j'ai salué ça. On en a parlé dans l'hebdo Etienne avec l'ami Poulpe notamment, il y avait qui encore ce jour, je ne sais plus. Et on s'est dit, oui, c'est bien, c'est la fin d'une hypocrisie, la nudité autorisée sur Twitch dans certaines conditions, bien rangée dans une catégorie, c'est la fin d'une forme d'hypocrisie et de puritanisme à l'américaine. Voilà, ça a duré 24 heures. Le lendemain, 24 heures plus tard, ils sont revenus en arrière. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont partis bien sucette, bien en live pour faire n'importe quoi à ce propos. Et Twitch a dit « Oh non, c'est pas vrai ». Et ils sont revenus aux règles d'avant, voire un tout petit peu plus serré. Donc le nez de Depardieu, c'est un nez. Point. Alors, le président Macron, je vous le disais, hein, c'est l'équaliseur. Cyril, on essaye. Je vais sur l'équaliseur. Il est où l'équaliseur ? Attends. Là, c'est l'équaliseur. Attends. Je suis sur un truc là. Je l'ai quelque part, ça, je crois. Attends. Je cherche un truc. Où est-ce que tu... J'ai perdu ton message. Ah, j'ai perdu ton message. Dommage, ça m'intéressait. Equalizer. À 130 HZ. Je l'ai plus, l'equalizer. Je l'ai plus. J'ai pas osé. Non. Non, j'ai high pass filter, nose gate, DSR, compressor et affex sur ma Rode. Je sais pas, equalizer. Attendez, on fait juste un petit point de son. Peut-être qu'on va réussir à baisser les basses sur ce micro. Salut Julo. Salut Hugo. Alors, j'attends la réponse de mon ami. iPass. Je l'ai iPass. Filter. Je suis à 130, je suis à 63 HZ. C'est quoi HZ? Je suis à 63 HZ. C'est quoi HZ? C'est Hertz. Hertz. Il faut être au-dessus de 100. Attention. Là, je suis à 100. Je suis passé à 110. Je suis passé de 63. Voilà. Est-ce que c'est mieux ? Bon, 180, carrément. Je suis à 150. Est-ce que. Quoi ? Talma me dit c'est mieux. Quoi ? Mais c'est incroyable. Mais Citron Violet nous fait un raid incroyable. Ami de Citron Violet, vous arrivez à un moment incroyable. La diff est flagrante. Oh, ami Citron Violet. Alors, Citron Violet, c'est une magnifique chaîne d'un Français qui est installé au Japon, que je vous incite à aller voir d'ailleurs, qui nous fait un très joli raid et vous tombez à un moment incroyable. Ça fait quelques semaines que les gens râlent, vous savez comment c'est. Un chat, parfois ça râle et c'est très bien en me disant « Ah, mais Sam, t'as trop de basses, trop de graves, ça résonne. » Voilà. Et en fait, bon, je faisais le mec qui voyait rien, parce que c'était surtout les gens qui m'écoutaient dans de très bonnes conditions avec des casques et tout. Et puis ce matin, on a fait, à l'instant, on vient de prendre 2 secondes pour essayer de trouver la solution. On m'a dit d'aller voir dans l'equalizer, dans le high pass filter, et on est remonté. On l'a activé déjà, on est passé de 63 à 150 Hertz. Voilà. C'est bien ou pas? C'est pas trop aigu? C'est vrai que c'est plus agréable? Oh là là, ça manque un peu de basse. Bah attends, on va descendre. On se met à 130. Je me mets à 120. Oh, c'est magique. Oh, Picsou est super content. Là, je suis à 120. Alors, on reste comme ça si ça vous va. Vous me dites. Voilà. Mais effectivement, parce que... C'est cool. Tip top. C'est parfait. Oh, bah c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Ouais. En plus, tu as appris ce que voulait dire HZ, trop bonne journée, ISDF, exactement. Capture d'écran sur mon réglage. Voilà, hop, le high pass filter, c'est fait. Le noise gate, il est inactif. Le desseur, il est inactif. Le compresseur, il est actif. Voilà, ça, c'est mes réglages. Voilà, comme ça. Ça a l'air de rien, mais ici, à échanger ensemble, on règle plein de trucs sur le fond et parfois sur la forme. Ok, et donc je vous disais, le président Macron a fait l'honneur des journaux ce matin, où je pense qu'il s'en serait bien passé, parce que l'humanité tire à boulet rouge sur le président en disant que le président Macron a trahi les Français, a trahi certains Français, trahison en 5 actes, nous dit Luma. Affaire Benalla, gilets jaunes, réforme des retraites, le macronisme est passé de pragmatique et moderne à antisocial. Tu perds ton sang-froid. Violent et méprisant. La loi immigration adoubée par le RN parachève cette dérive. Quels sont les 5 actes de la trahison du président Macron? Eh bien, je vous lirai ça, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Et puis, merci le chat qui nous permet d'avoir le meilleur son possible. Et merci le chat qui, hier, quelqu'un m'a dit ça, mais est-ce que tu as vu le papier dans Le Monde sur Vincent Bolloré, parrain de la droite et de l'extrême droite. Donc le milliardaire Bolloré, qui est propriétaire d'un vaste groupe médiatique, parrain de la droite et de l'extrême droite. J'avais oublié de lire Le Monde, du coup, donc ça m'a fait penser à ça. Je suis allé voir le dossier. En vrai, c'est super intéressant. Vincent Bolloré, parrain d'une alliance entre la droite et l'extrême droite. Le Monde, c'est une enquête assez fouillée. J'ai pris que le début de l'article, de Raphaël Baquet et Ariane Chemin. Tiens, d'ailleurs, je vais prendre une capture d'écran de cette deuxième page. Oh, Le Monde. Ah oui, c'est normal. Ah, je sais pourquoi ça fait ça. On l'a vu hier, c'est que Le Monde, tu peux faire des captures d'écran pour la revue de presse, mais quand tu vas sur l'appli du Monde, il y a un truc qui t'empêche de le montrer. Donc là, c'est normal. Hop, magie. Magic System, bien sûr. Et hop, là maintenant, vous avez l'article. Où est-ce qu'il est l'article? Il est là. Voilà. Donc, on lira du coup cette enquête, selon laquelle le milliardaire Vincent Bolloré aspirerait, rêverait d'une alliance entre la droite LR, la droite traditionnelle, la droite républicaine, comme on l'a appelée, avec l'extrême droite, et notamment le RN, voire le parti d'Éric Zemmour, pour qu'ensemble, eh bien, la droite et l'extrême droite arrivent au pouvoir en 2027 avec un partage des tâches qui, en gros, serait l'économie pour la droite, enfin voilà, notamment la gestion de l'économie, et puis la question de l'immigration, et puis je suppose les questions de sécurité pour l'extrême droite avec un partage des postes, des ministères. Voilà ce que dit en tout cas Le Monde. On va se pencher sur cette enquête pour voir ce que ça vaut. Ouais. Voilà le petit sommaire. Là, vous avez l'essentiel de l'actualité. Vous avez vu, je vous ai pas mis 1000 sujets, mais je pense que je vous ai mis des sujets qui me semblaient importants, quoi. Théo va? Ce serait plutôt une alliance entre le RN et la droite qu'entre la droite et le RN. Et s'il y a, quelle est la différence entre... Excuse-moi, peut-être que tu as raison, mais je ne comprends pas bien. Quelle est la différence entre une alliance entre la droite et le RN, et une alliance entre le RN et la droite. Une alliance. C'est... Je pense que tu veux nous dire quelque chose, mais je ne l'ai pas. Alliance. En termes de leadership, peut-être ? Ah. Ah, peut-être en fonction de la personne qui l'initie ? Ouais, bref, je pense qu'en vrai, je pense que, pardon, hein, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, hein, pour le coup. Hein. L'important, c'est de savoir si l'extrême droite arrive au pouvoir en France, au pouvoir exécutif en France, pour la première fois de notre histoire depuis la France de Vichy. Hein ? Je pense que c'est ça la question. Après, savoir qui aura un tout petit peu plus de domination sur l'autre, ça me semble pas inintéressant, mais ça me semble accessoire par rapport à cette vraie perspective. Est-ce que la droite va permettre à l'extrême droite d'arriver au pouvoir en 2027 ? Pour moi, la question, c'est celle-là. Alexandra, je t'ai vu sur la Une de Libération, t'inquiète pas. Hein ? On va en parler tout à l'heure. Bon, est-ce qu'on lit cette... En tout cas, je vois que ça vous inspire. Est-ce qu'on lit cette petite revue de presse ? Est-ce qu'on lit les journaux ? Est-ce que ça vous va ? Est-ce qu'on fait ça ? Est-ce que j'ai votre go ? Maintenant qu'on a des bons réglages de micro. Oui, c'est parti. C'est parti. Ouais, c'est pas faux. Dernière revue de presse de l'année. Pas le dernier stream de l'année, mais la dernière revue de presse de l'année, effectivement. Let's go. Alors, d'abord, les prix des billets de train. C'est cher, c'est trop cher. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'on peut faire autrement ? C'est le Parisien, ce matin, qui nous demande si, notamment pour les vacances, là, de Noël et de Nouvel An, est-ce qu'on a payé le juste prix ? 4,5 millions de personnes, c'est beaucoup quand même. On réservait un trajet en train pour les fêtes, alors que les prix s'envolent en cette période de forte affluence. La SNCF Voyageurs refuse de faire connaître le tarif moyen payé par les usagers. SNCF Voyageurs refuse de faire connaître le tarif moyen payé par les usagers. Bon, le Parisien a enquêté, et quand le Parisien a demandé à la SNCF de lui donner le tarif moyen par les usagers, la SNCF a dit bah, « non, je ne vais pas vous le donner ». Bon, c'est que sans doute il y a un petit loup. C'est sans doute que ce tarif moyen est peut-être important. Il y a un cri du cœur de Marie-Christine Tabet dans un édito. Éditorial, c'est un article où le journaliste donne son avis et signale au lecteur que ça n'est que son avis, ce ne sont pas que des faits, c'est aussi l'expression d'une opinion. Marie-Christine Tabet qui implore la SNCF, qui implore les pouvoirs publics, qui implore l'exécutif, SVP, faites-nous préférer le train. Quand là, tu vas voir qu'on est très loin d'un SNCF bashing. On rêverait, dit Marie-Christine Tabet, que face aux enjeux climatiques majeurs auxquels la planète est confrontée, le train, le moyen de transport le moins polluant, nous accompagne à nouveau. Hein, le train qui accompagne le quotidien et les déplacements des Français depuis longtemps. Et avec le succès que vous savez, moi j'adore le train, je kiffe le train. Le train c'est ma hype absolue. Le maillage est là, même s'il n'est pas toujours en très bon état. Et nos concitoyens sont déjà conquis. Je pense que les Français aiment globalement le train. Or, si le train a joué un rôle important dans l'évolution de la société, dans le développement des loisirs, dans le désenclavement de nombreuses régions et la création de métropoles de taille européenne, c'est parce qu'il était accessible au plus grand nombre, dit la journaliste. Ça n'est plus le cas, dit-elle. Elle dit clairement que c'est cher, trop cher. Je pense qu'elle parle du TGV. Hein. Les TER, je pense que ça va. Du moins, beaucoup de Français ont le sentiment qu'il ne l'est plus accessible au plus grand nombre. Il y a Anteros qui dit « Je prends le train demain Nîmes-Paris pour 3 personnes. Aller-retour, 350 balles. » Bon, bah 350 balles, quoi. Voilà. Moi, j'ai réservé des billets de train pour janvier. Pour aller voir ma famille en Bretagne à 4. Bon, le petit dernier, il y a 3 ans, il paye vraiment pas cher. Bon, effectivement, on est dans ces prix-là aussi, ouais, 350 balles à peu près. À 4, sachant que le dernier, il paye quasiment rien, quoi. C'est cher et c'est pas cher. C'est très cher en vrai, en valeur absolue, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais vu que c'est un week-end de janvier, manifestement, les gens vont pas trop bouger. Je pense que si j'avais pris ce même aller-retour-là pour Noël, ça aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Le problème aussi, c'est que souvent, on essaye tous de voyager tous au même moment, bah, notamment pour les vacances scolaires. On n'a pas trop le choix de nos vacances. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent... Salut Annie. Il y a Julo qui dit bonjour à Annie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent choisir réellement les dates de leurs vacances. Voilà. Et donc, du coup, elles sont un peu imposées par les entreprises, par les vacances scolaires. Et du coup, on part tous en même temps. Le résultat, c'est que ça coûte deux bras, quoi. Donc, la journaliste nous dit qu'elle a l'impression que le train n'est plus accessible à tous. Or, dit-elle, bien sûr, il existe une politique tarifaire permettant d'obtenir des petits tarifs, mais à quel prix? Il faut avoir la bonne carte, avoir réservé bien longtemps à l'avance. Tout le monde ne peut s'offrir ce luxe, hein, de pouvoir réserver bien à l'avance. Les voyageurs rencontrés par les journalistes du Parisien aujourd'hui en France, à l'occasion de cette enquête, le disent sur tous les tons. Pour une entreprise détenue, voici la conclusion de la journaliste, à 100% par l'État, est-ce une utopie d'imaginer la prise en compte de l'équation environnementale dans sa stratégie? À Noël, tous les rêves sont permis. Qu'est-ce que nous dit Marie-Christine Tabet? Que c'est dommage, que le train soit parfois trop cher, alors que c'est l'arme absolue en matière de transport pour limiter au maximum nos émissions de CO2. Et donc, Marie-Christine Tabet fait un rêve. En utilisant ce mot de rêve, elle dit bien qu'elle n'est pas dupe et que c'est sûrement plus compliqué que ce simple souhait, que ce simple rêve. Mais ce rêve d'un train plus accessible à tous pour continuer le désenclavement des territoires, continuer à faciliter le quotidien des Français et le tout avec le moins d'émissions de CO2 possible. Le débat a commencé dans le chat. Je lis l'article pour nourrir ce débat et après, je vous lis vous. Reportage de Victor Tassel dans Le Parisien. Les voyageurs ont échappé à un mouvement social cette année, sauf pour les usagers de l'Eurostar ce jeudi. Quelqu'un dans le chat tout à l'heure a passé la nuit dans un bus. Mais ils ne sont toujours pas épargnés d'un point de vue financier. Pour les vacances de Noël, 4,5 millions de personnes ont réservé un trajet en train pour les fêtes, c'est beaucoup. 1 million, dont 400 000 à Paris, voyagent d'ailleurs dès ce premier week-end. À quel prix SNCF Voyageurs refuse de faire connaître le tarif moyen payé par les usagers? Comme chaque année, en cette période de très forte affluence, les tarifs pratiqués par la SNCF s'envolent, atteignent même parfois des sommets. D'après une étude réalisée par Liligo.com, comparateur en ligne, ils gonflent de semaine en semaine actuellement jusqu'à plus 60%. De manière générale, on s'aperçoit que, d'abord dans une certaine logique, les prix sont surtout élevés pour les plus longs trajets. Ensuite, par ailleurs, la SNCF utilise le même modèle que dans les compagnies aériennes, avec le yield management qui fait varier les tarifs à mesure que la date approche. Là, c'est intéressant. Plus les trains sont remplis, plus les places se vendent cher, résume Guillaume Rostand, qui est porte-parole du comparateur. Les dernières places s'arrachent donc à prix d'or. Les petits prix partent excessivement vite à l'ouverture des ventes. Peut-être que vous avez connu ça. Hein. Vous vous connectez très très vite dès que c'est open, et puis il n'y a déjà plus les tarifs les plus intéressants. En particulier sur les horaires les plus recherchés, dit Arnaud Aimé, qui est lui un spécialiste au transport au sein d'un cabinet de conseil qui s'appelle SIA Partner. Pourquoi c'est cher? La SNCF manque de matériel alors que la demande augmente fortement. Or, pour acheter de nouvelles rames, elle doit dégager des bénéfices, mais en même temps, l'État souhaite que ses résultats financent d'abord l'entretien des rails, souligne Arnaud Aimé. C'est la ponction sur les bénéfices de la SNCF pour l'entretien des voies qui, selon ce spécialiste et selon Le Parisien, explique que la SNCF n'a pas les moyens pour investir par ailleurs dans l'achat de rames et de proposer des tarifs plus intéressants. C'est ce qui est évoqué dans cet encadré ici, sur le fait que les prix des billets ne vont pas baisser dans les années à venir. Une des raisons réside dans la participation de la compagnie ferroviaire exigée par l'État pour financer la régénération du réseau. Alors, quelqu'un me disait dans le chat, c'est normal. Alors, c'est normal. C'est normal, sauf si on estime qu'on est sur un service public et peut-être que. Alors, je ne suis pas du tout sûr ce que j'avance. Hein, c'est une hypothèse de travail, une piste de réflexion. Si on estime que c'est un bien public, c'est un service public, et donc il faudrait par exemple que l'entretien de la voirie, hein, du réseau, soit financé par l'argent public, hein, par la collectivité. Voilà. Par les deniers publics, et donc quelque part par l'impôt, hein, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, etc. La TVA, pour que la SNCF ait les coudées un peu plus franches financièrement pour pouvoir acheter des rames, embaucher des cheminots et faire baisser le prix des billets. Juste pour nourrir un petit peu ce débat. Il y a besoin de 1,5 milliard d'euros par an pour moderniser ce réseau, c'est beaucoup, et atténuer son vieillissement. D'ici à 2027, pardon, le groupe SNCF va devoir reverser presque 6 milliards. 6 milliards d'euros pour l'entretien du réseau. Ces montants importants imposent de dégager des bénéfices. Et pour les résiliés, on compte sur les résultats de SNCF Voyageurs, hein, qui dépendent beaucoup de ceux des TGV. Or, dans le même temps, on réduit notre marge de manœuvre, dit-on, la SNCF, en favorisant l'arrivée de concurrents. Vous êtes très nombreux dans le chat à me parler de la concurrence, comme Trenitalia, comme Renfe. Je crois que Trenitalia, c'est italien, et Renfe, c'est espagnol. Qui, eux, ne contribuent pas au fonds de concours. Alors ça, moi, je l'apprends. Merci, Linkle. J'apprends que les fameux concurrents là, qu'on a vus apparaître ces derniers mois sur certaines lignes les plus rentables, MMG, bon entretien tout à l'heure, ne contribuent pas à ce fonds d'entretien des lignes. Bah, je trouve ça intéressant, puis ça ne semble pas tout à fait normal, quoi. C'est une concurrence déloyale, dit la SNCF. À cela s'ajoutent des péages, donc les péages pour pouvoir utiliser les infrastructures, donc les rails les plus élevés d'Europe, et une exigence de l'État de garder en plus des prix accessibles à tous. Ce sont des injonctions contradictoires, dit-on parfois à la SNCF. L'effort demandé par l'État à la SNCF réduit sa capacité à acheter de nouvelles rames, etc. Ça, je vous l'ai dit. Bon, voilà un petit peu les termes du débat. Est-ce qu'il y a des spécialistes du sujet, vous savez ? Non, il y a 2500, et je sais qu'il y a des gens dans le chat qui connaissent forcément très bien ce sujet, qui ont bossé là-dessus, qui ont réfléchi dessus, qui travaillent peut-être à la SNCF. Je vous lis. Ben oui, c'est le problème, ouais. Xine, pour aller à Genève, 1 heure d'avion, 3 heures de train depuis Paris. 67 euros pour l'avion, 140 euros pour le train. Voilà. Il y a un truc qui ne va pas. Et d'un côté, un mode de transport qui pollue très peu et l'autre qui pollue beaucoup, quoi. Ils font pareil avec EDF, dit Super Kevin. Le privé se gave dessus et donc sur le contribuable. Je vous lis. Voilà. Comme le résume Normanos, l'État imposerait trop de conditions à la SNCF pour pouvoir améliorer les prix pour les clients. Voilà. Tenry, bien sûr, les Français paient l'entretien des rails avec leur impôt et ensuite on ouvre la concurrence, la partie rentable. On connaît bien l'arnaque. Ouais. Vous revenez au prix et à la comparaison avec les prix d'avion. Nomaxar, 400 euros pour un Paris-Nice avec Air France en période de Noël alors que les avions sont loin d'être pleins. C'est révoltant, sachant que la pollution que ça dégage. Je vous lis, hein. Oui, alors moi j'entends cet argument. LM76, quand je dis que je n'arrête pas de répéter que le SNCF, enfin pardon, le train est un moyen de transport vertueux sur un plan écologique, il y a LM qui dit, sauf que quand on n'a pas les moyens, on prend le moins cher. On ne prend pas celui qui pollue le moins. La pollution, c'est vraiment un truc de bobo en fait. Alors, ça ne devrait pas l'être. Mais de telles injonctions, prenez le train plutôt que l'avion, quand le train est beaucoup plus cher que l'avion. Quand le train est beaucoup plus cher que la voiture, dès qu'on voyage à plusieurs, hein, il est évident que... Non. Un truc de bobo, bravo whisky. Il faut essayer de comprendre cet argument. Il y a bravo whisky qui dit il faut doser quand même un truc de bobo. Il faut comprendre l'argument, parce que sinon on ne va pas y arriver. Il faut que tout le monde puisse faire cet effort. Je suis désolé, mais quand une famille avec des revenus qui ne sont pas stratosphériques a le choix entre prendre les billets SNCF à un prix parfois vraiment très élevé, ou la voiture, ou à partir du moment où on est 2, 3 ou 4, ça va coûter beaucoup moins cher. Et quand on est un petit peu serré au niveau du budget, pardon, mais pour le coup, c'est un vrai sujet. Donc il ne faut pas, du tout ignorer ce genre d'argument, sinon tu mets de côté de cette question de l'environnement et de l'écologie tout un pan de la population, et ce n'est pas normal, quoi. C'était, c'est un peu le, C'est une question très large d'ailleurs, qui ne se pose pas que sur les transports. Donc non, il faut entendre ces arguments. Et trouver des solutions. Tiens, Normano, c'est salarié SNCF Réseau. Le plus important est de comprendre, nous dit-il, que les contraintes imposées par l'État imposent à la SNCF de faire des bénéfices importants pour pouvoir satisfaire les demandes de l'État pour rénover le réseau. Ben, c'est un petit peu ce que disait l'article, ok. C'est clair. Je vous lis. Hein, comme le dit Raven, on n'est pas tous avec des salaires parisiens ou de grandes villes. N'oubliez pas que les salaires sont différents d'une région à l'autre. Voilà. Nono l'escargot, je vis à Barcelone et remonter à Paris voir ma famille pour les fêtes. L'aller-retour en avion coûte 100 euros, 300 euros en train, 1h30 de vol, 8 heures de train, plus cher, plus long. Oui, le bobo était peut-être un petit peu fort, bravo Whisky, mais c'était pour. Parfois, on force un petit peu le mot pour faire comprendre l'argument. Je comprends ce que tu dis. De Théban, ce que tu dis m'intéresse, il faut que tu développes un peu ton argument, parce que du coup tu piques ma curiosité sur l'histoire du cabinet de conseil citoyen et le problème structurel lié au néolibéralisme, mais je vois que tu développes un petit peu. Voilà. Je prends le train, dit Alma, mais ça me fait mal aux fesses car j'estime que c'est beaucoup trop cher, le prix de mon trajet a plus que doublé en 20 ans, et pas mon salaire, hein, et je ne suis pas un bobo pour autant, juste j'ai pas le choix. Alors bravo Whisky, il n'y a pas tort quand il dit pour la voiture, on oublie toujours de prendre en compte l'amortissement de la voiture, coût kilométrique, achat, entretien, etc. Bien sûr, il n'y a pas que le plein d'essence. Merci Best, ton compliment est totalement erroné et infondé, mais ça fait très plaisir. Il y a Tueur 35, impossible de lire ce chat, il y a 5 pavés par seconde. Si, en fait, on s'habitue. Encore là, vous n'êtes pas trop nombreux. Si, mais, et puis il faut le lire parce que le chat est intéressant. Mais il y a un peu de commentaires, quoi, ça débat, c'est tout l'intérêt de ce chat. Alors, vous êtes plusieurs à évoquer la qualité du service aussi, Gizmo. C'est surtout le prix par rapport à la qualité de service rendu. Pas de place assise dans le TER qui circule avec du retard. On a l'impression de payer pour être en retard. Oh, Harmonie. Oh, c'est dur. Harmonie, personnellement, tout est trop cher. Je passe mon réveillon seul. Est-ce qu'on peut envoyer à la force à Harmonie, qui est l'une des modératrices de cette chaîne, les transports, les factures, tout est hors de prix. En tant qu'étudiante, c'est pas possible. Oh. Il y en a des messages dans le chat. Harmonie, on t'envoie plein de force, t'as vu. Alors, est-ce qu'il faut taxer plus l'avion, Anticlem dit, taxer le kérosène pour faire baisser le prix des trains, taxer sur une taxe sur le kérosène fléché, on taxerait le kérosène pour faire et on mettrait l'argent sur le prix des trains. Moi, je trouve ça intéressant. Acharnard, non mais sérieusement, les gens qui pensent que la SNCF se gave, résultat net pour le groupe au premier semestre, 158 millions sur un chiffre d'affaires de quoi 20, 200, quoi, de 2 milliards. Oh, j'arrive pas à le faire, il y a trop de zéros. Soit même, en tout cas, pas à peine 1% de marge, et les gens ne se rendent pas compte à quel point prendre 1%, c'est rien. Bon, si c'était une boîte vraiment à gestion totalement full privée, quoi, c'est sûr que ça coûterait un autre prix. Hein. Je parle des billets. Mélissa a trouvé un moyen de lire le chat sans prendre du retard. Moi, je ne lis plus le chat, je regarde juste les pseudos, juste les noms. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un sujet intéressant. Tâche. C'est vrai ça ou pas? C'est intéressant, il y a Zasmae 5. Je sais que certains travaillent dans le secteur aérien dans le chat. Qui dit le kérosène est le seul carburant non taxé en France, c'est une niche fiscale validée par l'État. C'est vrai ça? Attendez. Parce que là, il y a une piste là. On me dit oui, on me dit que c'est vrai. Ok, c'est véridique. Ok. Bon, bah, pourquoi pas, hein. Alors, c'est même mondial. C'est ce qu'on appelle les accords de Chicago. Alors, moi, vous savez quoi? J'ai envie de bosser là-dessus. Parce que je trouve ça quand même très intéressant. Hop. Tac. Attendez. Tac. Voilà. Alors, attendez. Comment tu dis? Accord de Chicago? Kérosène. Si on regarde, on vérifie. Let's go. Convention de Chicago, ça s'appelle. La Convention de Chicago. Donc c'est une explication qui vient d'un débat à l'Assemblée nationale, donc ça, la source a l'air assez sérieuse. Adoptée en 1944, prévoit que le carburant d'un avion ne peut pas être taxé à l'arrivée. Voilà. C'était un débat justement sans doute à l'Assemblée sur faut-il taxer le kérosène. Toutefois, il pourrait être possible de prévoir une taxation pour les vols intérieurs qui représentent 20% du trafic en France. Vous voyez, en fait, les députés s'en sont emparés. Il y a une page wiki qui a l'air assez complète sur cette convention de Chicago. Qui ne concerne pas que le carburant. Hein. Ok. Donc c'est un accord international. Pourquoi le carburant n'est pas taxé ER? Bon. Contrairement aux autres carburants, le kérosène utilisé dans l'aviation civile n'est pas ou très peu taxé dans la plupart des pays, notamment parce qu'on voulait développer le transport aérien au milieu du XXe siècle. Bah, peut-être qu'il serait temps, peut-être, de remettre ça en question. Je dis ça, je dis rien. C'est intéressant. Hein. Article de Libération en novembre 2018. Pourquoi ne pas taxer le kérosène des avions? Luc Payon écrit cet article. On fait une pause là-dessus, vous voyez, hein, on fait une pause là-dessus, c'est intéressant. Pourquoi ne pas taxer le kérosène des avions? Le carburant pour aéronef est exonéré de taxes pour les vols internationaux suite à une convention datant de 1944. Moi, j'apprends un truc ce matin. Rien n'empêcherait pourtant de le fiscaliser pour les vols internes. C'est ce qu'on voyait dans le débat à l'Assemblée. Ça va les pop-up là? Donc, depuis la Convention internationale de Chicago de 1944 sur l'aviation civile internationale ratifiée par la France, les vols internationaux sont exonérés de toute taxe sur les carburants. L'objectif à l'époque était donc de développer le trafic international. Aucune taxe, donc ni TICPE ni TVA. Voilà. Donc déjà, c'est un manque à gagner, ne serait-ce que pour la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, de 3 milliards d'euros pour l'année 2018. Par exemple, 3 milliards d'euros, c'est quand même beaucoup d'argent. Or, rien n'interdit de mettre une taxe sur les vols intérieurs Et on apprend dans cet article de Libération que les États-Unis le font déjà. Taxe sur les vols intérieurs, sur le kérosène. Le Brésil le fait. Le Japon le fait. La Norvège le fait. La Suisse le fait. Les Pays-Bas le font. À plusieurs reprises, des amendements parlementaires, donc les politiques, certains politiques s'en sont emparés, ont tenté de mettre fin à ces niches fiscales pour les vols intérieurs sans succès. Avec notamment comme argument la préservation de la compétitivité des compagnies françaises face à des entreprises étrangères qui iraient faire le plein hors de nos frontières. Ah. Et ouais, d'accord. Ouais, encore. Ouais, on met moyen de trouver une solution, peut-être, non, quand même. Hein. Intéressant. Ok. Bon, bah, vous voyez, grâce à vous, j'ai appris un truc. Donc, convention de Chicago, c'est ça? Ouais, 1944. Bah, la prochaine fois qu'on aura ce débat dans le chat, je vais tellement me la raconter. Merci, Mononeurone, pour cette deuxième année d'abonnement consécutive. Je vais tellement me la raconter dans le chat. La prochaine fois qu'on parlera de ça, je dirais convention de Chicago, 1944. Pas de taxation sur le kérosène, quoi. Quoi? Vous savez pas ça? Mais si, mais c'est évident, quoi. Je veux dire. Ah bah si, quand même. Salut Alex Hart. Salut Dame Sonia. Ouais. Ouais, quand Altice l'arrive, il ne faut pas oublier les Ryanair et autres EasyJet qui sont domiciliés dans des paradis fiscaux et qui créent aussi des distorsions de concurrence. Esquimau dit, je me réveille s'il te plaît Sam, est-ce que tu peux parler lentement? Non, parce qu'on s'échauffe pour Valorant. Hein, et dans une heure ou deux, on va être au taquet sur Valorant, on va tirer sur les murs, ça va être formidable, il faudrait que tu sois bien avec nous, donc au contraire, je vais accélérer. Ok. Ah super Samuel 2027, il veut nous mettre encore plus de taxes. Je ne voterai pas pour toi finalement, me dit Quentin Lala en 2027. Sachez, pour ceux qui ignorent, que c'est un projet secret, donc je ne vous parle qu'ici. Hein. Je ne le dis pas aux téléspectateurs de questions pour un champion, j'attends un petit peu. Je vous rappelle que on va lancer à 6 mois de la présidentielle de 2027 une campagne express pour la présidentielle visant à me faire élire président. Campagne menée sur les réseaux sociaux à base de Twitch, de TikTok, d'Instagram essentiellement. Voilà. Des petits clips, des petits trucs, un slogan tout simple, efficace. Vos idées sont les miennes. Je rappelle mon programme. Patrick, qu'est-ce que tu penses de ça? Ok. Marie, qu'est-ce que tu penses de ça? Ok. Vous n'êtes pas d'accord? Je suis d'accord avec vous. Je sais, vous n'êtes pas d'accord, je suis d'accord avec vous. Tout à fait. Oui. Vos idées sont les miennes. Impeccable. 2027, let's go. Tous les matins, un petit stream de l'Elysée. Voilà. Avec une petite réal qui va bien. Je prendrai un réalisateur, tout ça. Enfin, j'embaucherai Joe, hein, je le nommerai ministre de la Communication. Et puis un petit stream tous les matins. Et puis on décide ensemble tous les matins de la politique à mener, quoi. Qu'est-ce qu'on fait là sur le truc là, le kérosène là, sondage, pish, voilà, sondage, ok, 52%, 48%, ok, pish. Ministre du budget, bonjour, ouais, José, ministre du budget, José, ça y est, c'est voté, tu vas me taxer le kérosène, oui, il n'y a pas de mais, regarde le sondage, regarde, hop, voilà, tous les matins, démocratie directe, j'adore cette blague. Ticapi, quelle blague. Ticapi dit j'adore cette blague. Quelle blague. Quelle blague. Blague de quoi? Blague de. Quelle blague. Non, c'est pas une blague. On est pas là pour. Comme le dit Diesel, on n'est pas là pour rigoler ici. 2027, baby. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que le José ministre du budget demande l'ordre russe et le José de la série Scène de ménage, c'est José. C'est le même José. Ouais. C'est ce José-là. Ce serait mon ministre du budget, mais je voulais pas le dire, mais voilà. Ouais. Voilà. On veut un ministre du e-sport, bien sûr. Bien sûr. Rayou. Ah non, Rayou, ministre de la Culture. Et toi, ministre de la Culture, ministre du e-sport, je sais pas, moi, Kamel? Kameto? Kameto? Hein? On est d'accord? Ok. Ministre du sport. Ministre des sports. Domingo? Domingo? Hein? Ministre... conditions féminines, très important. Moi, je fais un secrétariat aux droits aux femmes, un ministère. Je mets... je sais pas qui je mets. Je mets qui? Trivia? Little Big Whale? Sunday? Sunday? Ouais. Magla? Magla? Jill? Jill, très bien aussi. Très bien. Ouais. Ah, ministre des sports, ça pourrait être Kayane aussi. Ouais, pas faux, pas faux, pas faux. Ouais. Ministre de l'Intérieur, sécurité. Attention, hein, la police, tout ça. Qui on met? Ah, qui on met à l'intérieur? Qui on met à l'intérieur? Antoine Daniel? Poulpi? Sardoche? Angle droit? Je vois beaucoup Antoine Daniel. Mister MV? Pas pourquoi? Moment à l'intérieur, ça me fait rire. Angle droit, Jean Massier. J'ai tranché. Jean Massier. Ah, j'hésite. Jean Massier, ministre de l'Intérieur. Ah, mettre un peu de douceur dans tout ça. Ah, Sturi, spécialiste de catch aussi, ça pourrait le faire. Allez, un dernier ministère pour la route, puis après on enchaîne. Ministère de la calvasse, un ministère dédié à la chute des cheveux, voilà, pour enfin trouver des solutions efficaces pour enrayer la chute des cheveux. Je crois que un nom s'impose à nous, bien sûr, nous pensons tout ça. Jiraya, bien sûr, j'ai ce ministère et pour toi, et je vous promets qu'en 2027, à partir de 2027, on lancera un grand programme de recherche, parce qu'il faut des priorités dans la vie. Hein, de recherche, la France prendra la tête de ce grand programme international de recherche sur la chute des cheveux. Voilà. Exactement. Allez, on enchaîne. Je redeviens un petit peu sérieux. Pour vous parler, pour revenir sur cette polémique née des propos du président Macron sur Gérard Depardieu, on rappelle le contexte, le président Macron était invité, c'était quand? C'était mardi soir, non? Je sais plus. De l'émission de France 5, c'est à vous, pour essentiellement revenir sur le projet de loi sur l'immigration. Voilà. Et à un moment, il est interrogé par Anne-Elisabeth Lemoine, qui est une bonne amie, avec qui j'ai travaillé à une autre époque, sur l'affaire Depardieu et le fait que la ministre de la Culture estime qu'on devrait lui retirer sa Légion d'honneur à l'acteur pour notamment ce qu'on a pu voir dans le complément d'enquête qui lui a été consacré, et également le fait qu'il est mis en examen et que plusieurs femmes ont porté plainte contre lui. Voilà. Lisons cet article. Article, une pleine page dans Le Parisien, et un dossier entier avec une une de Libération sur le sujet. Major Tom me dit que Clément, c'est bien sûr Clément Viktorovitch, a fait une masterclass ce matin sur le sujet. Je vous conseille d'aller regarder ça. Je pense que c'est en replay sur la chaîne de Viktorovitch, alias Klemovic. Voilà. Régis Lewis, j'ai dépensé 150 000 points de chaîne pour que tu chantes, t'es passé à côté. Je suis désolé. Je me mets ça de côté, je me mets ça derrière l'oreille. En ce moment, je tousse un peu, donc je ne peux pas chanter. Mais promis, bientôt. Bientôt. Macron Depardieu, sa préférence nationale, c'est le titre de Libé, avec ce magnifique dessin de Coco, avec là, c'est les deux compagnons très heureux d'être là. Gérard Depardieu avec un nez en forme de nez, puisque nous sommes sur Twitch, et un président Macron qui est assis manifestement sur une pancarte, MeToo. En volant au secours de l'acteur mis en cause par plusieurs femmes, Emmanuel Macron a une nouvelle fois méprisé la parole des victimes, estime Libération, enterrant un peu plus la grande cause du quinquennat. Édito, pour commencer, de Paul Quignot, hémiplégie coupable. Hémiplégie, c'est intéressant. Je trouve ça assez pertinent, vous allez voir. Hémiplégie. Voilà. Disons que, pour résumer ce que va dire Paul Quignot, Macron a raison sur un point, mais il en a oublié un deuxième très gros. Mercredi soir, à la fin de l'émission C'est à vous, Emmanuel Macron a volé au secours de Gérard Depardieu. Et pas qu'à moitié. Il a utilisé le terme de chasse à l'homme et parlé de l'acteur comme d'une fierté française. Sa déclaration quasi d'amour à Gérard Depardieu, contre qui 3 plaintes pour viol ont été déposées, a choqué, et pas seulement dans les milieux féministes. Commençons par ce point qu'il faut entendre dans la déclaration du chef de l'État. Oui, la présomption d'innocence est un principe fondamental de notre droit, et je suis évidemment qui ne peut pas être d'accord avec ça, qui se retrouve malmené à l'ère des réseaux sociaux, de la multiplication des fake news et de la culture télévisée du clash. De plus en plus, on juge dans la rue, on juge au café, on juge sur les réseaux sociaux, on ne laisse pas la justice faire son travail. Oui, il s'agit d'un dégât collatéral de l'ère post-MeToo auquel il faut veiller. Le problème, dit Paul Quignot, c'est qu'Emmanuel Macron a fait preuve mercredi soir d'une hémiplégie coupable. Sa flamme pour le monstre sacré du cinéma français et son emphase à refuser cette société de l'inquisition, là-dessus, je pense qu'on peut être tous d'accord, n'a eu d'égal que sa timidité à revendiquer ou se réjouir de cette libération de la parole des femmes victimes de violences. Je vous l'ai dit dès hier qu'on a commencé à en parler. Rappeler l'importance de la présomption d'innocence dans le droit français, c'est vraiment un pilier fondateur d'une démocratie, c'est bien. Mais dans le même temps, on aurait voulu entendre aussi dans la bouche du chef de l'État, qui est le président de tous les Français et toutes les Françaises, des mots en direction des plaignantes et ou des victimes des violences faites aux femmes. Ça n'était pas présent, suffisamment présent dans son intervention. Voilà, ça, c'est ma position. Bon, manifestement, Libération, on est sur la même ligne. Présomption d'indécence, donc titre Libé. Lisons l'article et après, je vous lirai, bien sûr. On est là pour échanger, même si on n'est pas d'accord. Rappelons les faits. Une quinzaine de femmes accusent Gérard Depardieu d'agression sexuelle. Une quinzaine de femmes. 3 plaintes ont été déposées. Et Gérard Depardieu est mis en examen pour viol depuis 2020, suite à la plainte de Charlotte Arnoux, comédienne de 28 ans. Surtout, le cas Depardieu a refait la une depuis sa diffusion le 7 décembre, il y a quelques jours, de l'émission Complément d'enquête sur France 2. Une séquence en particulier a marqué les esprits, tirée des rushs d'un documentaire inédit tourné en Corée du Nord par Yann Moix en 2015. On y voit un Depardieu obscène. On a vu un extrait ici. Hein. Vous l'avez vu cet extrait, bien sûr, partout. Obscène, parlons des femmes comme de simples objets sexuels, délirant sur le fait qu'une fifille, ce sont ces mots qui semblent être une enfant d'une dizaine d'années, puisse jouir sur un cheval. L'extrait a été contesté par la famille du comédien dans une tribune publiée par le JDD, qui appartient à Vincent Bolloré, qui accuse l'émission d'avoir sorti les images de leur contexte. L'argument quasi complotiste d'un montage, voire d'une manipulation des images et de la bande-son, puisque Depardieu était hors champ quand on l'entend délirer sur la petite fille, a ensuite été relayé massivement dans les émissions phares du groupe Bolloré, de CNews recevant Julie Depardieu au talk show de Cyril Hanouna, touche pas à mon poste. Hypothèse étrangement reprise par Emmanuel Macron, qui a déclaré sur France 5, je cite, « Je me méfie du contexte. Il y a eu des polémiques sur les mots qui étaient en décalage avec les images. Les gens auront à débattre. » En auront à débattre. Le problème dans ce qu'a dit le président Macron, c'est exactement la ligne de défense des proches de Depardieu, c'est exactement ce qui a été évoqué par les médias relevant de la sphère de Vincent Bolloré. Et donc, remet en question la rigueur et l'honnêteté du travail de l'émission Complément d'enquête sur une chaîne du service public qui est France 2. Comme s'il s'agissait, dit Libé, d'une vidéo non sourcée, trouvée dans les tréfonds du dark web, alors qu'elles ont une provenance claire, on sait d'où viennent ces images, donc a priori tout est vérifiable. S'il y a eu un montage maladroit ou malhonnête, eh bien ça peut se prouver, puisqu'on sait d'où viennent les images. C'est le film inachevé de Moix, et ces images ont été diffusées après un travail de tri et de vérification de journalistes d'une émission du service public, qui, par ailleurs, on le verra plus tard d'ailleurs, tiennent leur travail à disposition de qui veut en disant voilà, ce qu'on a dit, on l'assume et on le répète. Voilà, on peut vous le montrer. On a les images. On a tout. On le verra plus loin. Pourtant, il y a un article que j'ai pas lu. Ah ben oui, je vous ai lu l'article de Libération, mais je vous ai pas lu celui du Parisien. Bah, du coup, on va revenir sur toutes les infos dans le Parisien qui va plus loin sur certains points. J'ai inversé, je vous d'abord vous parler du Parisien, puis de Libération. Bah, j'ai fait l'inverse, c'est pas grave, on va lire le Parisien maintenant. On lit. Attendez, hop, je regarde une info. J'aime faire du bruit avec mon clavier de gamer. C'est un clavier League of Legends que j'ai. Allez, continuons maintenant l'article du Parisien sur le sujet. Merci FCF Cake pour le soutien. Un crachat à la tête de victime, ça ce sont des paroles d'un clavier mécanique, bien sûr, disait. Bien sûr. Ici, c'est une chaîne de gamers essentiellement, quoi. Dans cet aveu, Emmanuel Macron a dit son admiration pour Gérard Depardieu et que la ministre de la Culture s'était trop avancée, puisqu'il y a aussi un aspect très intéressant, une forte tension sur ce sujet entre le président et sa ministre de la Culture, trop avancée en déclarant que la Légion d'honneur pouvait lui être retirée. Une gifle pour toutes les victimes, des propos sidérants, anachroniques, une déconnexion totale, les propos d'Emmanuel Macron concernant Gérard Depardieu dans l'émission C'est à vous ont suscité la colère des féministes. Ce mercredi soir, alors que la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine lui demandait s'il estimait que le comédien faisait honte à la France, le président de la République a répondu qu'il était un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur, c'est un génie de son art, a-t-il détaillé. Si je puis me permettre, j'ouvre une parenthèse. Ça n'a rien à voir avec les accusations dont il est vu. L'objet. Je pose la question, comme dit Pascal Praud sur CNews, je pose la question, quel est le rapport entre le fait qu'il soit accusé par une quinzaine de femmes d'agression sexuelle et le fait que ce soit un grand acteur? Déjà, c'est très subjectif, on considère que c'est un grand acteur ou pas, il l'a sûrement été d'ailleurs, je me rappelle de rôles chez Piala par exemple, incroyable, donc immense acteur, c'est peut-être le cas, il l'a peut-être été, mais quel rapport? Moi, je pense qu'il n'y a pas de lien. Mais bon, je me trompe peut-être. Assurant que le comédien rend fière la France et précisant qu'il déteste les chasses à l'homme. Bon, moi, personnellement, ce n'est pas Depardieu en particulier qui me rend fier d'être français ou pas, quoi. Et précisant qu'il déteste les chasses à l'homme. Et là, on est plus sur la question du respect de la présomption d'innocence. Là-dessus, rien à dire. Deux semaines après la diffusion d'un complément d'enquête montrant Depardieu tenir des propos obscènes devant plusieurs femmes, en gros, sur toutes les femmes qui croisaient, hein. Et au lendemain de l'annonce d'une troisième plainte contre l'acteur de la part d'une journaliste espagnole qui l'accuse de viol, cette défense a choqué. C'est une gifle pour toutes les victimes de violences sexuelles et sexistes. C'est un surge Ursula Le Men, porte-parole de l'association Oser le Féminisme. Quand Macron parle de chasse à l'homme, il tente d'inverser les rôles en faisant passer le chasseur pour la proie, alors que Depardieu lui-même se présente comme un chasseur dans le reportage de France 2. Je suis sidéré, abonde Clémentine Charlemagne, déléguée générale du collectif 50-50 qui œuvre pour l'égalité, la parité et la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel. Macron tient un discours qui participe à asseoir la domination des hommes sur les femmes et les puissants sur les faibles. Ce sont des mots anachroniques qui prouvent une totale déconnexion par rapport à la réalité. Pour Anne-Cécile Melfer, présidente de la Fondation des femmes, la sortie de Macron constitue un crachat à la tête des victimes. Ce qui est gravissime, c'est que la parole d'un chef d'État a des effets, notamment sur les femmes qui veulent porter plainte, ou sur des policiers qui vont recevoir ces plaintes. Dans cet aveu, le locataire de l'Élysée a également mis en doute le reportage de complément d'enquête. « Je me méfie du contexte. J'ai compris qu'il y avait des polémiques, a-t-il dit, sur les mots qui étaient en décalage avec les images, faisant écho à la tribune publiée dans le JDD par la famille de Depardieu. qui assure que les propos de l'acteur ne désignaient pas la petite fille. Là encore, l'argument fait bondir. Nous maintenons toutes nos informations. Il n'y a aucun doute, aucune ambiguïté sur le fait que c'est bien la fillette à l'image qui est ciblée. C'est ce qu'assure France Télévisions. Voilà. Non seulement Emmanuel Macron remet en cause le travail de la télévision publique, mais en plus, Gérard Depardieu tient beaucoup d'autres propos injurieux vis-à-vis des femmes, face caméra, soupire Muriel Réus, cofondatrice, coprésidente de MeToo Media et présidente de Femmes Avec. On ne peut pas prétendre que l'égalité entre les femmes et les hommes est la grande cause du quinquennat et dire ce en même temps. Ce « en même temps ne fonctionne pas », tranche la militante, qui rappelle qu'en plus des 3 plaintes visant le comédien, plus de 15 femmes ont accusé la star de violences sexuelles. Justement, après avoir évoqué le cas de Gérard Depardieu, Macron s'est présenté comme inattaquable sur la lutte contre les agressions, les violentes faites aux femmes. Il a dit « sur ce sujet, je suis inattaquable », c'est ce qu'il a dit. Inattaquable, ça voudrait dire qu'il ne peut pas y avoir de débat sur son engagement sur la question de l'égalité homme-femme et sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Or, le débat, il doit avoir lieu sur tout. Le président Macron a le sentiment, la conviction d'être inattaquable sur ce sujet. Ça me semble présomptueux. On pourra écouter Carole Bouquet, si vous voulez. Vous êtes très nombreux à me parler de l'intervention de Carole Bouquet dans Quotidien. Carole Bouquet, qui, on va le rappeler, est l'ancienne compagne l'ancienne compagne de Gérard Depardieu. Si vous voulez, on pourra l'écouter, peut-être, ça peut nourrir le débat. Au passage, mercredi, le chef de l'État a opéré un lâchage en règle de sa ministre de la Culture. Ça, c'est important aussi. Parce qu'il y a peut-être un aspect politique dans cette histoire. Quand Anne-Elisabeth Lemoine a évoqué l'ouverture annoncée par Rima Abdul-Malak, donc la ministre, d'une procédure disciplinaire visant à retirer la Légion d'honneur à Gérard Depardieu, le président a rétorqué que sa ministre s'était un peu trop avancée et enfoncé le clou en déclarant « la Légion d'honneur est un ordre dont je suis le grand maître et qui n'est pas là pour faire la morale ». Là-dessus, débat aussi. Légion d'honneur. Alors, j'ai l'impression que dans Légion d'honneur, il y a honneur. Et je ne suis pas le seul à le dire. Donc cette phrase, elle est un peu étrange. La Légion d'honneur est un ordre dont je suis le grand maître qui n'est pas là pour faire la morale. Si on donne la Légion d'honneur à quelqu'un, c'est selon la formule consacrée en raison des services rendus à la France, mais aussi parce que on estime que la personne qui reçoit cette distinction, fait preuve de moralité, enfin, minimale, quoi. On est bien d'accord. Donc cette phrase, elle les arbitre. Certains interprètent cette sortie de Macron sur l'affaire Depardieu comme un règlement de compte politique pour tacler sa ministre de la Culture, qui a affirmé récemment que certains aspects de la loi immigration heurtaient ses convictions. Je n'ose imaginer que ça puisse être le cas. Imaginez que le président Macron se soit emparé de cette question pour tacler sa propre ministre de la Culture, pour lui faire la leçon en disant « Tu vois, t'as voulu me chercher des noises un petit peu sur le texte sur l'immigration, je te renvoie dans tes cordes sur l'affaire Depardieu », j'espère que ça ne peut pas être ça, parce que alors là, ça veut dire, là, c'est une catastrophe. Parce que ça veut dire, on est en cours de récré, quoi. Hein? Et ça, ce n'est pas possible, à ce niveau de responsabilité politique, bien sûr. Je conclue l'article. Les détracteurs du chef de l'État rappellent que le règlement de la Légion d'honneur précise la moralité, vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est le règlement de la Légion d'honneur, la moralité comme l'un des critères d'attribution de la distinction. Et que dans le cas des procédures de suspension ou d'exclusion, si c'est bien le chef de l'État qui tranche in fine, c'est au grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur d'ouvrir les dossiers disciplinaires. Et ce dernier, d'ailleurs, a bel et bien ouvert un dossier disciplinaire contre Gérard Depardieu après la diffusion du complément d'enquête. Donc sachez que le truc est a quand même été lancé. Bon. J'ai assez lu de trucs. Est-ce qu'on va voir Carole Bouquet sur Depardieu? Je ne l'ai pas écouté, moi. Dans Quotidien. Ça va pas être difficile à trouver. YouTube. Vous voulez qu'on écoute? Je vous mets ça. Ah, café. Alors, je crois qu'on y est dans 2 secondes, là. Ok, je vous mets ça. Allez, go. Carole Bouquet.
Jeudi 21 décembre, Carole Bouquet était invitée dans l'émission Quotidien et elle est arrivée furieuse sur le plateau. J'ai un vrai problème avec ce qui est en train de se passer avec Gérard en ce moment.
Oh, c'est même pas le bon extrait. Enfin, c'est la personne qui parle dessus. Bon, alors je vais sur le site de TF1. Hop. Bon, j'ai une pub de TF1.
Retrouvez Quotidien avec la petite robe noire, la nouvelle eau de parfum.
T'en fous. Voilà, là on a l'extrait. Go. On remet le son.
Promotion de. D'une série dont
Absolument,
on va parler tout
mais,
à l'heure
mais...
avec vos comédiens, les comédiens qui jouent avec
oh,
vous.
Ça marche pas.
Vous étiez en loge et
oui.
Vous avez entendu
incroyable.
Jean-Michel Abatis
tout à l'heure sur Gérard Depardieu.
Et... Ah non, mais la scène est marche. La scène est marche.
Et alors j'ai un vrai problème.
C'est juste qu'il y a un truc qui fait qu'on peut pas le, on peut pas le regarder. C'est protégé. Ouais. D'accord, ok. Bon, on va écouter le son. C'est pas grave, on va écouter le son. Bah, c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est le fond, hein, c'est pas le visage de Carole Bouquet. On y va.
Et
alors, j'ai un vrai problème avec ce qui est en train de se passer avec Gérard en ce moment. À propos de droits des femmes, et il y a 37 ans, j'ai monté une association qui s'appelle La Voix de l'Enfant pour la protection des enfants qui sont victimes d'inceste et aussi des femmes de féminicide. Je suis plus que féministe. Je sais qu'on a le droit de vote seulement depuis 1945, qu'on a le droit d'avoir un compte en banque seulement depuis 1965, ainsi que l'autorisation de travailler sans l'autorisation de son mari en 1965. L'avortement est une chose très fragile, il n'y a qu'à voir ce qui est en train de se passer en Amérique. Donc je suis inattaquable sur ça et je suis heureuse que les femmes puissent...
Décidément, ce mot inattaquable a beaucoup de succès en ce moment. Bon...
prendre la parole. Mais par contre, que ce tribunal médiatique continue et que ça fait des mois que ça dure et que c'est en train de tuer un homme, je ne peux pas le supporter. Alors j'ai pris des notes parce que
Allez-y, on a le temps, Carole.
À un moment donné, à cause de la voix de l'enfant, j'ai dû me porter, moi, plainte, contrainte mes amis. Dont je pensais qu'il était victime, enfin que ses enfants étaient victimes d'inceste. Donc j'étais dans une situation malheureusement extrêmement embarrassante. Pour autant, je l'ai fait. Et il s'est avéré que malheureusement j'avais raison. Donc je n'ai aucune tendresse possible pour quelqu'un qui se révélerait être un monstre. Mais là, c'est pas le cas de Gérard. Il y a un tribunal médiatique qui s'est mis en place. La ministre de la Culture se permet de dire qu'il fait honte à la France. Ben, je veux bien. Enfin, qui lui demande comment les juges peuvent-ils après, calmement, sans être influencé, pouvoir prendre des décisions. Ils doivent juger, effectivement, il est accusé de viol. Comment ne sont-ils pas, en ce moment, mais surchargés d'informations contradictoires et même, en général, à charge contre Gérard ? Ça vient de ce, entre autres, de ce complément d'enquête qui est une émission absolument dégueulasse.
Bon, voilà, les mots de Carole Bouquet ont le mérite d'être clairs.
Abominable, je suis désolée. Gérard a tenu des propos. Effectivement, il est capable d'être grossier. Il est capable d'avoir un humour extraordinaire et quelquefois limite. Mais par contre, il est incapable de faire du mal à une femme. J'ai vécu, je le connais depuis 46 ans. J'ai vécu 10 ans avec lui. Je sais qui est Gérard, avec ou sans alcool. Je connais les démons de Gérard. Il est incapable de faire violence à une femme. Alors laissons la justice décider si oui ou non il a violé une femme. Moi, je suis certaine que la justice décidera que c'est faux. Et arrêtons cet emballement, cette délectation qu'on est média en ce moment autour de Gérard Depardieu. Parce que moi, j'en peux plus. Ils sont en train de tuer un homme, c'est-à-dire voilà, excusez-moi. Et vraiment, je suis plus que féministe. Donc, et je ne peux... Donc, aucun moyen, je ne peux pas imaginer défendre un homme qui se serait comporté de cette manière. Donc je sais ce que je suis en train de dire, mais là en ce moment malheureusement tout le monde en parle, même notre ministre...
Et ces femmes qui témoignent, Carole ?
Mais elles témoignent alors, par exemple, de qui vous voulez me parler ?
Bonne question.
celle que je connais, Anouk Grimbert. Alors je la connais, ça tombe très bien. Anouk, on a tourné ensemble, elle dit qu'elle a fréquenté Bertrand Blier. Pardon Anouk, tu n'as pas fréquenté Bertrand Blier, tu as vécu avec lui pendant des années et tu en as même fait un enfant avec lui. J'ai dîné je ne sais combien de fois avec Anouk. Jamais Anouk, entre nous quatre, ne s'est plaint d'aucun propos de Gérard. Jamais. Alors elle dit maintenant qu'elle avait honte des plaisanteries qu'il faisait, qu'elle riait parce que tout le monde riait. Mais j'étais sur les mêmes plateaux. On riait. Et puis quand on trouvait que l'humour de Gérard était de mauvais... Enfin, c'était pas drôle. Enfin.
Donc là, je pense que Carole Bouquet répond à côté, comme certains le signalent dans le chat, quand le présentateur de l'émission parle des témoignages des femmes, il parle des témoignages des femmes qui accusent Gérard Depardieu d'agression sexuelle. Et là, Carole Bouquet parle d'Anouk Grimbert, la grande actrice, magnifique, incroyable, qui... elle dénonce manifestement l'humour lourd de Gérard. Alors, ou elle n'a pas compris la question, Carole Bouquet, ou elle répond à côté.
On lui disait, mais ça ne veut pas pour en dire que ça ne fait pas de lui un criminel, ce n'est pas un crime. Et de même qu'alors, à ce moment-là, tous les écrivains qui ont écrit des textes érotiques, alors on va les condamner aussi.
Là, on est un peu à côté de la plaque. Je pense que la question qui était posée portait sur la quinzaine de femmes qui ont accusé Gérard Depardieu d'agression sexuelle.
Oui, je veux dire, c'est et en l'occurrence, ça, physiquement, Anouk dit, elle dit qu'elle est sûre qu'il l'a violée, mais elle était dans la chambre avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je parlais plutôt des femmes qui l'accusent de les avoir.
Ah mais celle-là, alors celle-là, il se trouve que je les connais pas, et je suis certaine que c'est faux. Gérard est incapable. Je vais pas vous donner des. Détails de ma sexualité, parce que j'ai eu 10 ans de sexualité avec Gérard, mais je pourrais vous dire qu'il est incapable de violence sur une femme. Ça ne l'intéresse pas, d'aucune manière. Que des propos, et que pour faire de l'humour, il soit capable de dire des conneries. Mais il ne l'a pas dit devant un enfant et une femme. Ça, c'est un montage de complément d'enquête qui est vraiment... Moi, je pensais que c'était une émission vachement bien. C'est une émission de merde. Ils ont fait un montage. C'est des propos qui sont effectivement graveleux, qui ne sont pas franchement à sa gloire. Bon, mais il l'a fait depuis toujours. Et puis, ça fait rire, ça ne fait pas rire. On lui a dit, moi, je lui ai dit... Ça n'a aucune importance. Il n'y a pas de quoi. C'est pas un crime. Et quant aux jeunes femmes qui se plaignent, que la justice fasse son travail. Une fois qu'elle aura fait son travail, voilà.
Mais
il ne peut pas être jugé à l'avance. C'est ce qui se passe depuis des mois. C'est insupportable. Et moi, maintenant, j'ai peur pour lui. Et c'est pourtant quelqu'un de solide.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Qu'est-ce qu'il vous dit?
Les femmes... je ne parle pas spécifiquement de Gérard...
Apathie, qui pose la question. Jean-Michel Apathie.
Par Depardieu, mais les femmes qui pensent que des hommes ont été violents avec elles...
Alors,
on les encourage à prendre la parole. Tant et mieux. On leur dit, on vous croit. Parce que pendant des années...
Tout à fait d'accord. Mais
on ne voulait pas vous entendre. Comment on gère ces situations-là?
Mais on peut aussi, c'est pour ça qu'Anouk, on peut aussi se réécrire l'histoire 30 ans après. Avec conviction. Je ne vous dis pas que c'est la généralité, mais on peut aussi, et je l'ai vu dans une autre histoire, qui a été jugée sur une jeune femme que j'ai vue à table pendant un an, tous les soirs, dîner avec la plus grande joie avec un homme qui était un metteur en scène très connu, et qui, 30 ans après, raconte qu'elle était sous influence. J'étais là tous les soirs pendant cette année où cette jeune femme était amoureuse. Et effectivement, elle est... mais on est tous sous influence. Moi, je suis sous influence. La preuve, je vous réponds, voyez, par rapport à ce que je dis, je suis sous influence. On est tous, à un moment donné...
Le risque, c'est de renvoyer les femmes au silence.
Nos enfants sont sous influence. Moi, je suis sous
influence.
Très bonne
question,
d'Apathie. C'est quelqu'un qui sera amoureux de moi. Ou dans le sens contraire, ou de quelqu'un que j'admire. Il faut arrêter.
Nous recevions... C'est bien ou pas la prise de parole? C'est bien.
La prise de parole, finalement, très bien. Mais et elle est obligée. Vous savez pourquoi? Ça fait 2000 ans qu'on est traité de sorcière. Je suis totalement d'accord avec vous. On ne peut pas faire autrement. C'est donc d'une violence inouïe et d'une trop grande violence dont on ne va pas pouvoir faire l'économie. Parce qu'effectivement, encore hier, on n'avait pas le droit, ne serait-ce que de voter, indépendamment qu'on était traité de sorcière et qu'on a le droit d'avoir, encore une fois, je veux dire, je suis née après ça, je ne savais même pas que c'était 65. 45, je savais que c'était le droit de vote parce que je me suis fait engueuler par Lucie Aubrac parce que je n'avais pas été un jour votée. Elle me dit, mais j'ai quand même pas fait la guerre, que tu oses ne pas aller voter. 45, Carole, très bien. C'était un tout petit vote de quartier, si je puis dire. Je me suis engueulée. Dorénavant, je vais toujours voter.
On s'en fout, Carole, c'est pas ça.
Mais sinon, bien sûr. Vas-y. Encore une fois, 2000 ans. L'autre jour, j'étais dans une messe très jolie. Et bien évidemment, on parle du serpent, de la femme. C'est notre culture. depuis 2000 ans, c'est très difficile maintenant. Je connais beaucoup d'hommes autour de moi que j'aime énormément qui me disent qu'ils ne veulent pas employer des femmes en tant que dans leur, à la tête de leur société, qui prennent des chasseurs de tête et qui pour autant prennent des femmes à la fin de 2 ans de recherche, prennent des femmes. J'ai dit, alors comment elles vont faire? Parce que pour finir, tu les as prises. Elles ont des enfants, elles s'en occupent. Tiens, il y en a une tiens, qui a, dont le bras, c'est, sa fille s'est cassé le bras, l'autre qui passe le bac et pourtant elle est là en train de travailler. Comment se fait-il? Donc y a, ça continue, ça ne va pas bouger très vite.
Carole
Donc il y a un excès de violence.
Nous recevions il y a 2 jours sur ce plateau Raphaël Baquet, qui est une journaliste du Monde, qui a enquêté sur Gérard Depardieu. Elle a publié une série, c'était l'été dernier. Elle décrivait Gérard Depardieu comme un homme de pouvoir. Et elle disait qu'il y avait abus de pouvoir de Gérard Depardieu, qu'il ne s'attaquait pas aux femmes puissantes comme vous, mais aux assistantes,
etc. Mais quand j'avais 20 ans, je l'ai connu quand j'avais 20 ans. J'en ai 66 aujourd'hui. En quoi j'étais puissante quand j'avais 20 ans? Il était toutes les soirs en train de frapper à ma porte. On était entre Carmé, Billet, le père, le fils, Gérard, Jean-Pierre Rassam. Alors aujourd'hui, on ne fait plus non plus la grande bouffe pendant qu'on y est. On ne fait plus non plus les valseuses. Vous voyez ce que je veux dire? On ne fait plus non plus Trop belle pour toi d'ailleurs. Parce que même ça, ça ne va pas. Femme puissante, j'étais pas du tout une femme puissante. Il tapait à la porte parce qu'il avait, il avait envie de continuer de parler, parce qu'il aime parler, surtout quand il avait bu. Je lui dis, écoute Gérard, je t'en supplie, je suis fatiguée, va te coucher. Point.
Il n'y a jamais eu aucun doute de votre part?
Mais pas le moindre. J'ai fait je ne sais combien de films avec Gérard. Encore une fois, il est capable de plaisanteries effectivement très grossières. Très souvent, très très drôle, parce qu'il est très rapide. Mais quelquefois qui peuvent être très grossières, qui peuvent choquer. Moi, ça ne m'a jamais choquée, mais ça peut choquer. Je peux comprendre aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai un de mes propres fils qui est producteur, me dit Carole, et il adore Gérard.
Dimitri
il me dit, je ne supporterai pas que Gérard parle comme ça sur un tournage. On ne parle pas comme ça sur mes tournages. Ce à quoi j'ai répondu, mais t'es devenu complètement idiot, mon fils. Tu vois, je veux dire, c'est donc on ne peut plus parler, on ne peut plus rien dire. Il y a un tribunal maintenant de la bienséance.
Vous disiez que vous étiez inquiète pour Gérard Depardieu.
Oui, est-ce que vous êtes toujours... c'est en train. Je veux dire,
vous êtes en contact avec lui. Qu'est-ce qu'il vous dit?
Mais vous croyez quand même pas que ça l'atteint pas? C'est-à-dire qu'au départ, il le prend de façon légère parce que c'est impensable que quelqu'un puisse se plaindre de viol de la part de Gérard. Je vous jure que c'est impensable. Encore une fois, je ne vais pas vous expliquer ma sexualité ou la sienne. Vous voudrez faire une autre émission. Je ne sais pas. C'est pas le lieu.
On a dit qu'il était parti dans un pays un peu loin de tout ça. C'est le cas?
Mais en tous les cas, je lui ai demandé de partir. Parce qu'en ce moment, il va se faire agresser. La moitié des gens vont lui dire bravo.
Secondes.
Et l'autre moitié va l'agresser sans savoir pourquoi. Parce qu'en ce moment, il faut que les médias se taisent. Ils se sont tus pour notre ministre de la Justice. Qu'on se taise pour Gérard, qu'on laisse la justice... Mais comment voulez-vous que les juges ne soient pas influencés par tout ce qui est en train de se passer et tout ce qui est en train d'être dit? Comment ça va être possible, ça?
On leur fera confiance.
Eh ben j'espère et je leur fais confiance.
Est-ce que vous avez dit tout ce que vous vouliez
absolument.
Dire?
Absolument.
Voilà, merci. Bon, j'avais pas goûté cet extrait, pour le coup c'est intéressant. Beaucoup de réactions dans le chat. À l'instant, une contre-vérité. Carole Bouquet, donc, la grande comédienne, affirme que les médias se sont tus pendant le procès du garde des Sceaux. Éric Dupond-Moretti, on en a parlé quasiment tous les jours ici. Voilà, on a parlé avant, on a parlé pendant, on a parlé après, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup d'articles dans la presse sur ce procès d'Éric Dupond-Moretti. Les médias ne se sont pas tus, ni avant, ni pendant, ni après. Pour le coup, bon, ça c'est vraiment une fake news absolue. Bon, les habitués de cette chaîne le savent, vous avez les articles en replay. Autre chose, un message très intéressant dans le chat, qui comprend pas que j'ai pu décider de passer cette séquence, je vais essayer de le retrouver. Ah, c'était bien ton message. Ah zut, je crois que je peux pas remonter suffisamment haut. Quelqu'un qui disait, mais je comprends pas Samuel que tu diffuses cet extrait qui vient justement nourrir le tribunal populaire, et qu'on n'attend pas la décision de la justice, puisque c'est le message de Carole Bouquet à plusieurs reprises. Tiens, je vais vous remettre la une de Libération sur le sujet. Il y a plusieurs choses, en fait. Il y a plusieurs choses. Les propos qui ont provoqué la colère de la ministre de la Culture dans le complément d'enquête de France 2 sur les propos tenus par Gérard Depardieu sur les femmes lors de son voyage en Corée du Nord, il n'est pas poursuivi pour ses propos. Il n'est pas poursuivi par la justice pour ses propos. Carole Bouquet, d'ailleurs, le dit au début, ça n'est pas un crime. Hein, il est lourd, il est, moi je dirais d'autres mots que lourd, hein, parce que bon, c'est quand même quand vous avez en tête les propos tenus sur les femmes par Gérard Depardieu dans, qu'on a entendu le complément d'enquête, c'est pas lourd, c'est pas de l'humour, c'est pas drôle, c'est juste catastrophique. Mais ça n'est pas un crime. Et d'ailleurs, il n'est pas poursuivi pour ça. On va pas laisser la justice faire son travail là-dessus, parce qu'il n'y a pas d'aspect judiciaire. C'est juste qu'en fait, c'est pas intéressant d'en parler. Comme Carole Bouquet elle-même l'a rappelé, on est très très loin de la fin de ce combat pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, et la fin des agressions que les femmes vivent souvent au quotidien dans l'intimité du foyer, dans la rue ou dans le monde du travail. Les propos de Depardieu sur les femmes s'entendent dans ce débat, qui est un débat d'actualité. La ministre de la Culture, quand elle parle de l'éventualité de retirer la Légion d'honneur à Gérard Depardieu, je pense que c'est à la fois en raison de sa mise en examen pour viol, du fait qu'une quinzaine de femmes à ce jour l'accusent d'agression sexuelle, et cerise sur le gâteau, de ses propos dans complément d'enquête. Mais pour l'aspect de complément d'enquête, il n'y a pas d'aspect judiciaire. Mais c'est pas pour cette raison qu'on ne doit pas et qu'on ne peut pas en parler. Et puis, pour répondre encore à cette question qui était très intéressante de Samuel, pourquoi tu mets en avant ce sujet? Est-ce que ce n'est pas nous faire, nous, juges, à la place des juges de cette affaire? Il n'y a pas d'aspect judiciaire sur ça. Et rien ne nous empêche, nous, de nous emparer d'un sujet qui est un sujet, non pas judiciaire ici, mais un sujet de société. Par ailleurs, le débat est public, puisque la ministre de la Culture réclame quand même qu'on retire la Légion d'honneur à Depardieu. Et c'est un débat public aussi parce que le président Macron s'en empare. La question lui est posée par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5. Rien ne lui obligeait, un, à répondre à la question d'Anne-Elisabeth Lemoine. Les journalistes ont le droit de poser les questions qu'ils veulent, mais les gens qui sont interviewés ont le droit de ne pas répondre et de dire, les politiques nous sont assez habitués à cette petite pirouette, écoutez, moi je me réserve de ne pas répondre à cette question, puisque c'est à la justice de faire son travail, je ne souhaite pas m'exprimer sur ce sujet. Il avait, un, le droit de ne pas répondre, deux, il avait aussi le droit de ne pas dire que pour lui, c'était le plus grand des acteurs, qui était formidable, que c'était la fierté de la France, ça aussi il a eu. Donc, en se prononçant, le premier magistrat français, le président de la République, eh bien, il crée un débat public et nous avons le droit, nous, de nous pencher sur ce débat. Voilà, donc je réponds à cette question. Bon, en tout cas, je trouve que c'est un sujet intéressant. Au-delà de Depardieu, qui, finalement, est une illustration du débat sur le droit des femmes en France. Je voulais un petit peu, parce que j'ai beaucoup parlé, pardon. Bakionizos, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Merci à toi. En fait, comme le dit Pipo, il n'y a pas de plainte concernant les propos tenus dans le reportage. Maintenant, si on met tous les lourdingues en prison, ça va être compliqué. Il n'est pas question de mettre Gérard Depardieu en prison pour les propos qu'il tient qu'on a entendus dans le complément d'enquête sur les femmes. Hein. C'est lourdingue, c'est ni fait ni à faire. En revanche, on a le droit, nous qui nous intéressons à ces sujets, de condamner les propos en disant en 2023 quoique je crois que les images datent de 2018. Bref, à notre époque, au 21e siècle, tenir ces propos sur les femmes, quel que soit son âge, de la génération d'où on est, ça n'est pas possible. On a le droit de le faire, ça. C'est un homme public, il parle devant des caméras, il sait que les caméras tournent. Alors ses proches disent « il est bourré ». C'est l'une des lignes de défense de ses proches, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est « il est bourré ». Et Gégé, quand il est bourré, il dit n'importe quoi. Bon, c'est une des lignes de défense de ses proches. Carole Bouquet l'évoquait d'ailleurs à l'instant. Voilà. Bon, est-ce que l'alcool doit être une excuse? Est-ce qu'il est bourré ou pas? C'est peut-être un des aspects du sujet. Je ne sais pas. Salut, docteur Pérec, qui est avec nous pour la première fois. Dans l'histoire, pour moi, le sujet essentiel, c'est la mise en examen de Gérard Depardieu suite aux accusations d'une femme et les 15 femmes qui l'accusent de violence sexuelle. Pour moi, c'est l'essentiel dans cette histoire. Voilà. Bon, le président Macron prend décidément un petit peu cher ce matin dans les journaux, puisque, et c'est le dernier dossier qu'on lira ensemble, pas du tout, j'ai un gros dossier sur Bolloré qui est passionnant après, l'avant-dernier dossier, il prend très cher dans l'humanité. Quelqu'un me disait, ah, mais est-ce que c'est pas une espèce de cette histoire? Est-ce que c'est pas, un contre-feu allumé par le gouvernement pour qu'on oublie la loi sur, le projet de loi sur l'immigration? Je pense que personne n'a oublié le projet de loi sur l'immigration. D'ailleurs, l'humanité y consacre sa une. Et estime que le président Macron a trahi. Trahi qui? Trahi quoi? Trahi comment? On va le voir. Trahison aux 5 actes. Affaire Benalla. Gilets jaunes, réforme des retraites. 3 des 5 actes. On verra les autres. Ensemble, le macronisme est passé de pragmatique et moderne à antisocial, violent et méprisant. La loi immigration, adoubée par le RN, parachève cette dérive, estime l'UMA. Macronisme, chronique d'une déchéance, titre l'UMA. En quelques années, la politique présidentielle est passée donc de pragmatique et moderne, c'est ce que voulait être le macronisme, à violente, autoritaire, antisociale et méprisante. Tu perds ton sang-froid. Finlay, j'ai la ref. Ça, c'est la vie de l'humanité, bien sûr. Après s'attaquer au modèle social, elles sont les prises aux fondations de la République lors de la loi immigration sous les applaudissements du RN. Pour ceux qui n'ont pas la ref de antisocial, tu perds ton sang-froid, on va vous faire écouter quelques notes de musique d'un des plus grands groupes de hard rock français qui s'appelle Trust. Voilà, ça, c'est du classique. Ça, c'est un peu notre Mozart à nous du métal français. J'irai entendre la suite, notamment le antisocial, tu perds ton sang-froid, c'est Trust. Le son est dégueu, Sam, mets-le sur le stream direct. Non, j'aime bien. Puis je me dis que peut-être que je suis un petit peu moins DMCA quand le son est dégueu, évidemment pas du tout. Mais ça me fait marrer. Trust, antisocial, vous irez écouter à la maison. À fond, les voisins vont adorer. Qu'est devenu, demande l'humanité ce matin, qu'est devenu le projet d'Emmanuel Macron qui visait en 2017, la modernisation de l'économie, la rénovation de la vie politique tout en n'étant ni de droite, ni de gauche. En 6 ans, le président a peu à peu montré son vrai visage, celui d'une violence économique et sociale au service des plus riches et celui d'une violence physique qui s'abat sur les manifestants. Il a atteint en cette fin d'année une nouvelle limite, estime l'humanité, en faisant adopter la préférence nationale pour les aides sociales au Parlement. Soit exactement ce que propose l'extrême droite, alors même qu'Emmanuel Macron a été élu par 2 fois pour faire barrage à l'extrême droite. L'affaire Benalla, le fait du prince. Alors, les 5 trahisons de Macron pour l'humanité, l'affaire Benalla, les gilets jaunes, l'affaire McKinsey, la réforme des retraites, la loi immigration. Voilà, pour l'humanité, la trahison en 5 actes. On commence par l'affaire Benalla, pour ceux qui l'ont oublié. L'affaire Benalla éclate durant l'été 2018, on est au début du premier quinquennat du président Macron, secoue jusqu'au sommet de l'État. Le conseiller du président de la République avait été filmé le 1er mai 2018, violentant des manifestants à Paris, affublé d'un brassard de la police. C'est pas plus policier que vous et moi. À l'Élysée, on était au courant, on n'avait pas daigné le sanctionner. Macron finit par s'exprimer lors d'un discours indigne d'un président, estime Luma. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher, lance-t-il en ciblant les médias, mais aussi le Parlement. Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité, dit le président Macron, avant de tancer les députés souhaitant créer à l'époque une commission d'enquête là-dessus. Certains voudraient faire sortir le pouvoir législatif de son lit, propos gravissime pour le garant de nos institutions, estime le président Macron. L'affaire Benalla. Deuxième, les Gilets jaunes. Face à l'une des plus grandes révoltes sociales de ces dernières décennies, Emmanuel Macron répond par une répression féroce. Fin 2018, les Gilets jaunes occupent les ronds-points partout dans le pays pour dénoncer un quotidien de moins en moins possible à vivre. Emmanuel Macron leur répond par des charges de police qui font des milliers de blessés, des dizaines d'éborgnés, des mutilés, des milliers de condamnations pénales. Les Gilets jaunes. L'affaire McKinsey, la République des affaires. La Macronie incarne la collusion des intérêts publics et privés, estime l'Humanité. On ne sait plus si Macron sert l'État ou si Macron sert les entreprises privées. Cette porosité entre l'État et le monde des affaires a été mise au jour par une parlementaire, Éliane Assassi, rapporteuse d'une commission d'enquête du Sénat sur les cabinets de conseil. Début 2022, l'élu communiste montre que pour la seule année 2021, l'État a dépensé 2,5 milliards d'euros pour des consultants privés, notamment le cabinet McKinsey, soit une hausse de 329% en 6 ans. Cela montre la défiance de la Macronie vis-à-vis de la gestion des politiques publiques par le public, estime la députée, la sénatrice. Quatrième trahison pour l'humanité, une réforme des retraites antidémocratique. C'était pas il y a très très longtemps, je pense que vous vous souvenez du débat. Lors de la réforme des retraites imposée en 2023, 49-3, on va le rappeler, hein. Le macronisme se livre à un coup de force antisocial et antidémocratique inouï. Le recul de l'âge de départ à 64 ans suscite le rejet de l'immense majorité des Français. Mais face à l'éventualité d'une défaite au Parlement, le président use d'articles réglementaires et constitutionnels pour réduire la durée des débats à 2 semaines. Puis il impose un vote bloqué au Sénat pour finalement recourir au 49-3 et faire adopter sans vote une réforme pourtant fondamentale pour la vie de millions de travailleurs. Et enfin, cinquième trahison pour l'humanité, une loi immigration qui abîme la République. Avec l'adoption de la loi immigration, donc il y a quelques jours, grâce au soutien du RN, l'ancienne République En Marche s'attaque aux fondamentaux de notre République. Ce texte qui met en place une préférence nationale est contraire à nos valeurs, contraire aux conventions internationales que nous avons signées, dénonce en tout cas Marie-Christine Verja, qui est vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. La remise en cause du droit du sol, par ailleurs, crée une inégalité entre enfants nés sur notre territoire. Cela faisait partie des fondements historiques du droit français, dénonce la militante. Conclusion de l'article de Diego Chauvet, Gaël de Santis et Aurélien Souchère dans l'Humanité. Cette loi, en plus de stigmatiser les étrangers, reprend sans vergogne le programme du RN, et ce alors même qu'Emmanuel Macron a été élu par 2 fois pour faire barrage à l'extrême droite. Voilà, bon. Après, c'est un regard, c'est un avis. Vous savez que l'Humanité est un journal qui assume être un journal de gauche, qui a été longtemps très très proche du Parti communiste. Donc c'est une grille de lecture. Mais en tout cas, je trouve intéressante le fait de revenir sur ces 5 moments forts des 2 mandats du président Macron, avec ce que l'Humanité estime être 5 trahisons du président de la République. Je vous lis un petit peu et après on parle... encore un petit peu du président Macron, mais surtout de Vincent Bolloré. Surtout de Vincent Bolloré. Qui fera barrage en 2025 ? Personne du Texas, parce que ce sera 2027 la présidentielle, si c'est de ça dont tu veux parler. Et puis ce sera moi qui fera barrage, puisque je me présente et je vais être élu. Voilà. Merci Alexandra pour le très gentil message. Je vous lis. à Oiseau. Je viens d'arriver. Est-ce que Sam a lu les mesures de la loi immigration ou pas? On l'a fait cette semaine. On a lu dans le détail ce qu'il y avait dans cette loi immigration. On ne va pas le refaire tous les matins, mais tu as ça en replay. On est revenu sur tous ces aspects, notamment avec un article complet dans Le Parisien. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Je vous lis. Hein. Brillant courage, démocratie pour les retraites, mais pas l'immigration, douce hypocrisie. Alors non, c'est l'inverse en fait. Enfin, ça, si tu parles du travail parlementaire, je te comprends mal. Il y a eu 49-3 sur les retraites, donc il n'y a pas eu vote au Parlement. Pour le coup, il y a eu vote du Parlement sur l'immigration. Alors, je ne sais pas si je te comprends mal, mais si c'est de ça dont tu parles, c'est, en fait, c'est l'inverse. Mais bon, peut-être que tu parles d'autre chose. Est-ce qu'on sera obligé de voter pour vous, Loucheur? Non, mais comme je serai clairement le candidat le plus séduisant par mon verbe et mon plumage... D'ailleurs, je viens de dire la même chose, d'ailleurs. Par mon ramage et mon plumage, eh bien tu n'auras pas le choix, quoi. Merci, Dame Sonia, pour le gentil soutien. T'as vu, le meilleur est à venir pour 2027, c'est la stratégie de Bolloré. Potemkin revient sur la question que je posais à l'instant. Non, il a raison, l'humain n'est pas cohérent, il faut suivre le Parlement quand ça l'arrange. Sur les retraites, par exemple, pour l'humain, mais pas sur l'immigration. Bon, de toute façon, chaque camp politique prend ce qu'il veut quand ça l'arrange. L'immense majorité des Français étaient contre la réforme des retraites, disaient toutes les enquêtes d'opinion. Le président Macron n'en avait rien à foutre. En revanche, pour légitimer le fait que cette loi sur l'immigration a été votée, et va entrer en vigueur, il dit l'inverse, il dit, vous voyez, dans les sondages, les Français disent qu'ils veulent cette loi sur l'immigration. Donc chacun va chercher ce qu'il arrange en termes d'infos, quoi. Est-ce qu'il y aura un système de sub offert si on vote pour toi? Ça n'était pas prévu, dit ton tombeuse, mais je trouve que c'est un aspect intéressant. Ouais. Ouais, pas mal ça comme idée, ça. Pas mal comme idée. T'as un propos de ça. Laissez-moi voir un truc sur TikTok. J'ai un peu l'esprit d'escalier. TikTok. Parce que ça va être quand même beaucoup sur TikTok, hein, tout ça. Ça achète des voix. Exactement. Alors... Quelqu'un dans le chat m'a dit, Monsieur Sam, avez-vous lu l'enquête dans Le Monde sur Vincent Bolloré et sa stratégie pour porter la droite et l'extrême droite au pouvoir en 2027? Eh bien, j'ai dit, eh ben non. Et du coup, je suis allé lire cette enquête et en vrai, c'est assez passionnant. Vincent Bolloré, parrain de la droite et de l'extrême droite, c'est la une, c'est à la une du Monde. Et puis, une enquête qui est passionnante, qui est à lire un peu plus loin. Je vous en ai mis un petit côté. Un petit passage de côté. Après 10 années consacrées à bâtir un empire dans les médias et l'édition, le milliardaire, donc Vincent Bolloré, que vous connaissez, veut préparer, dit Le Monde, le terreau d'une alliance entre la droite et l'extrême droite et mettre ses médias au service de cette cause. En 2022, sa chaîne CNews avait lancé la candidature d'Éric Zemmour pour l'élection présidentielle. Ça, c'est une info, c'est un fait. Ses idées xénophobes et ses théories racistes du grand remplacement, on parle de M. Zemmour, ont pénétré la société, mais sa défaite dans les urnes, on ne rappelle pas le score de la présidentielle, M. Zemmour, a convaincu Vincent Bolloré que Zemmour n'était pas taillé pour la victoire. C'est pas très gentil. Alors l'homme d'affaires réfléchit maintenant à la meilleure manière d'aborder la course pour 2027. 7%. Devant ses visiteurs LR, il imagine la répartition des rôles entre la droite des Républicains et le RN, la droite vous occuperez de l'économie et l'extrême droite vous occuperez de l'immigration. Mi-septembre, Emmanuel Macron et Vincent Bolloré, on reparle de Macron, Emmanuel Macron et Vincent Bolloré dont les relations étaient glaciales jusque-là, mi-septembre, se sont entretenues à l'Élysée lors d'un rendez-vous tenu jusqu'ici secret. Le Monde nous révèle que les deux hommes se sont rencontrés en septembre dernier. Personne ne le savait jusqu'ici. Les journalistes, c'est aussi là pour ça. C'est aussi là pour nous donner les infos que parfois on nous cache un petit peu. La rencontre entre Emmanuel Macron et Vincent Bolloré a donc eu lieu à l'Élysée à la mi-septembre. Le rendez-vous absent de l'agenda officiel est resté secret à ce jour et presque un événement, tant l'industriel et le président de la République s'entendent mal, même très mal. Nicolas Sarkozy avait bien tenté de les réconcilier à plusieurs reprises ces trois dernières années, en vain, mais cette fois, les deux hommes ont besoin l'un de l'autre et ils ont décidé de mettre un mouchoir sur leur inimitié. Merci Tartichou pour le soutien. Après 10 années consacrées à asseoir son contrôle sur Vivendi, puissant groupe de médias et de communication, Canal+, Havas, Editis, et désormais à faire fructifier sa propre fortune, tout va bien de ce côté, Vincent Bolloré a une affaire financière à régler. Pourquoi il y a eu ce déj? Pourquoi il y a eu cette rencontre? C'est un déj d'ailleurs, je ne sais même pas. Une rencontre. Pourquoi il y a eu? D'abord parce que Vincent Bolloré aimerait bien que le président Macron intervienne dans une affaire financière qui le concerne, nous explique Le Monde. Vincent Bolloré a une affaire à régler, pas une affaire judiciaire d'ailleurs, c'est avec la Commission européenne. Vivendi est en effet soupçonné par la Commission européenne d'avoir mis en œuvre le récent rachat du groupe Lagardère sans attendre son feu vert. Et fait l'objet, donc Vivendi, d'une enquête formelle qui pourrait se conclure par une amende à hauteur de 10% du chiffre d'affaires de la société. Une amende de 10% du chiffre d'affaires de Vivendi, c'est une grosse amende. Et parfois, vous savez que Bruxelles va au bout. L'homme d'affaires se prend parfois à rêver que le président Macron pourrait plaider auprès de Bruxelles en sa faveur, auprès de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Cette invitation à l'Élysée ne peut pas nuire à son dossier. Il y a Ronan qui me dit 10%, ça va. Non, on ne parle pas de 10% du bénéfice annuel. On parle 10% du chiffre d'affaires. C'est énorme. Du côté d'Emmanuel Macron, est-ce seulement le grand patron qui a été convié ou ce magnat des médias, désormais si politiquement influent, qu'il pourrait empoisonner la fin de son mandat présidentiel? Depuis qu'il a réorienté son groupe vers la télé, la radio et l'édition, le milliardaire est devenu un puissant faiseur d'opinion. Chaque jour, les talk shows de CNews, aéropage très masculin qui s'insurge contre plein de thèmes différents, hein, l'immigration, l'insécurité et le déclin de l'autorité. Alors, il y a plein d'autres thèmes qui sont évoqués sur CNews. Hein, dans les plateaux. Il y a aussi l'insécurité, il y a aussi l'immigration, il y a aussi le déclin de l'autorité. Voilà. Mais alors, il y a d'autres thèmes qu'il faut rajouter pour être tout à fait honnête. Il y a aussi l'immigration, l'insécurité et le déclin de l'autorité. Donc vous voyez, c'est une chaîne qui parle quand même de beaucoup de thèmes très très différents. Dont l'immigration, l'insécurité... Qu'est-ce que je suis con. Et voilà tout ça. Donc, chaque jour, les talk shows de CNews, aéropage très masculin qui s'insurgent contre l'immigration, l'insécurité et le déclin d'autorité, imposent leurs obsessions, souvent les mêmes que l'extrême droite, en dictant l'agenda politique et les débats. Sur les plateaux de télé CNews, élus de droite et d'extrême droite mêlent leurs voix, de plus en plus difficiles à distinguer, tombant souvent d'accord. Ils se sont d'ailleurs entendus pour de bon. Mardi 19 décembre, dans l'hémicycle de l'Assemblée, pour voter la fameuse loi immigration. Aréopage, pardon. Les tentatives d'Emmanuel Macron pour gouverner avec les seuls membres du parti LR, Bolloré, les croix sans avenir. Longtemps, le président Macron, qui n'avait pas de majorité à l'Assemblée, qui n'en a toujours pas d'ailleurs, s'est dit qu'il allait pouvoir trouver des majorités de circonstances, notamment avec les élus LR, une espèce d'alliance entre la Macronie et... la droite, mais ça, Bolloré n'y croit pas. Lui, il veut préparer le terreau d'une alliance entre la droite et l'extrême droite et mettre ses médias au service de cette cause, comme Fox News a contribué aux États-Unis à l'élection de Donald Trump à la présidentielle américaine. Pour cela, le milliardaire, qui n'aime ni les mondanités ni les estrades, c'est un homme qui est assez discret, on lit Le Monde, pour répondre à la question qui m'est posée dans le chat, consulte. Discrètement, il rencontre Éric Ciotti, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il rencontre Laurent Wauquiez, le chef de file des députés LR, il reçoit Olivier Marleix, il reçoit le maire de Cannes, David Lisnard, il a donc déjà testé en Maquignon, hein. Pas Matignon, hein, Maquignon, c'est l'homme qui, qui l'acheteur de bestiaux, quoi. Il a détesté en maquignon la plupart des patrons de la droite. Les tête-à-tête sont parfois suivis d'un article ou d'un portrait dans les médias du groupe, tiens, ça tombe bien, où sont abordées leurs ambitions politiques respectives. En 2022, la chaîne CNews, donc, qui appartient à Vincent Bolloré, avait lancé la candidature d'Éric Zemmour pour l'élection présidentielle. Ses idées xénophobes et sa théorie raciste du grand remplacement ont pénétré la société française, mais sa défaite dans les urnes, 7%, a convaincu Vincent Bolloré qu'il n'était pas taillé pour la victoire. Une version française de Giorgia Meloni, première ministre italienne actuellement anti-immigrée, libérale et européenne par réalisme, avec des subventions de Bruxelles plutôt généreuses pour l'Italie, plairait davantage aux milliardaires bretons. Il faudrait une Giorgia Meloni française. Aux élections européennes de juin 2024, il soutiendra sans doute Marion Maréchal, tête de liste de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, mais réfléchit pourtant déjà à la meilleure manière d'aborder la course pour 2027, pour la présidentielle. Devant ses visiteurs LR, il imagine même tout haut la meilleure répartition des rôles entre la droite et le RN. Ils s'occuperont de régler le problème de l'immigration et vous tiendrez l'économie, dit-il en substance à ses visiteurs du soir de droite. Mais pour l'heure, voici Vincent Bolloré à l'Élysée face à ce jeune président, donc la rencontre avec Macron, dont il n'a jamais apprécié ni le brio trop technocratique à son goût, ni l'idéal de start-up nation de ses jeunes conseillers. Il goûte en ce mois de septembre le plaisir d'être devenu incontournable pour le président. Le président Macron, qui soucieux de mener à terme son deuxième mandat sans trop de polémiques, eh bien, s'est décidé à traiter ce nouveau roi des médias et le ménager. C'est en tout cas l'analyse du Monde. À la fin de l'été, l'intervention de quelques ministres dans les colonnes du JDD, le journal du dimanche, dont Geoffroy Lejeune, le nouveau directeur de la rédaction, choisi par Bolloré, n'a jamais caché sa filiation d'extrême droite, fait querelle au sein du gouvernement. Vous savez, le JDD connaît un gros virage éditorial avec la nomination d'un nouveau directeur de l'information, de la rédaction qui vient de Valeurs Actuelles, un hebdomadaire clairement situé à l'extrême droite. Il y a un débat au sein du gouvernement. Est-ce qu'on doit continuer à répondre aux ITV, aux interviews du JDD ? Emmanuel Macron intervient et dit « Chacun peut intervenir dans les médias du groupe Bolloré ». Il le dit le 6 septembre. « Vous avez la possibilité d'utiliser tous les canaux à votre disposition ». Je vais à la fin de l'article, je vous lis pas tout, mais n'hésitez pas à aller acheter ou télécharger Le Monde pour le lire dans son intégralité. Comme l'extrême droite, le simple mot de diversité culturelle fait frémir l'homme d'affaires Vincent Bolloré. Tout est bon pour défendre les fondements d'une civilisation occidentale chrétienne menacée selon lui par l'afflux d'étrangers et surtout par l'islam. 7 pages sur l'immigration le 10 décembre dans le JDD, 6 pages le 17 décembre. En quelques mois, sur les plateaux de CNews ou de C8, les interlocuteurs de gauche ont disparu, ou presque. La croisade de Vincent Bolloré, qui déteste le pape François, passe également par un catholicisme des plus traditionnels. Voilà. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les intentions de Vincent Bolloré en matière politique, notamment pour la prochaine présidentielle, c'est à lire dans Le Monde, enquête signée Raphaël Baquet, Ariane Chemin, les deux grandes journalistes. Voilà, les amis, pour ce matin, je vous lis un petit peu sur Bolloré. Et après, après que certains journaux aient mis des headshots à certaines personnalités, nous, on va les mettre des headshots en vrai dans Valorant, histoire de se détendre un petit peu. C'est les vacances, ça fait plaisir. Faut pas dire ça. Faut pas souhaiter la mort des gens. Non, on est sur un débat d'idées là. On vit une révolution culturelle. Dans 50 ans, on en parlera à l'école, on l'enseignera. Voilà, cette séquence. Je suis assez d'accord avec toi en fait. C'est marrant, dit Beta Version Marion, comme cet héritage chrétien ne contient plus les valeurs de bienveillance, d'amour, de partage. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que manifestement Bolloré n'aime pas du tout le pape François. Vous savez, la chrétienté, le catholicisme, c'est pas quelque chose d'homogène. Hein. Vous avez des gens au sein de cette famille qui sont pas du tout d'accord. Hein. Selma Boukine, est-ce que vous avez parlé des propos de Macron sur Depardieu ce matin ? Petit peu. Genre une heure, mais tu as ça en replay. Ça me terrifie qu'un homme qui n'a aucun mandat puisse avoir autant d'influence sur la société française et sur les élections, nous dit Nat. Bon, après, Bolloré, il a milité pour l'élection d'Éric Zemmour à la dernière présidentielle, avec le succès que vous savez. Donc, Le pouvoir des médias d'influence de la, sur l'électorat, il est... on peut le relativiser quand même. De rien, Selma. Bonne journée à toi. Ça doit être sympa le réveillon chez Bolloré, dit Ronan. Alors justement, je vais pouvoir vous le dire, parce que alors, je vous l'avais pas dit du tout, mais je passe le soir de Noël chez Vincent Bolloré. Donc je suis invité, donc une petite messe privée. Et puis voilà, et ça va être tout un programme assez réjouissant. J'ai même le menu, là, je cherche un petit carton. Je vous raconterai, je ferai une petite photo. De toute façon, je posterai une photo, un petit selfie avec tout le monde. Je vous raconterai. Ouais. Il y aura du pâté neuf, oui, sûrement, ouais. Il y aura du homard, ouais. Ouais, peut-être. Selfie avec le Vince, voilà. Menu charcuterie only, dit Asmoth. Sérieux, dit Mano. Bien sûr, je ne dis que des choses sérieuses ici. Bien sûr. Je crois qu'il y aura Cyril aussi qui sera là. Cyril. Il y aura Vincent, il y aura Cyril. Je ne sais pas s'il y aura Gérard. Je sais pas. Je ne sais pas s'il y aura Pascal. Je pose la question, hein. Est-ce qu'il y aura Eric? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura... je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura Marine, je sais pas. Est-ce qu'il y aura Marion, je sais pas. J'ai reçu le menu, j'ai pas reçu la liste des invités. De toute façon, j'y vais pour passer un bon moment. Hein. Voilà. Ouais, je vous dirai. En tout cas, je serai bien entouré, comme le dit Schrank. Bon, en tout cas, moi, je sais pas si je serai bien entouré, mais je peux vous dire que j'ai passé un super moment avec vous ce matin. C'est un plaisir de lire. C'est mon rendez-vous principal, celui qui revient le plus souvent, la presse, avec vous tous les matins. Ce qu'on fait quand même, et je pense qu'on peut s'en féliciter. Ce qu'on fait quand même ensemble depuis 3 ans. Hein. Cette chaîne vient de fêter ses 3 ans. Ça fait 3 ans que j'ai débarqué avec mon petit PC portable grâce à l'ami Étoile pour vous lire les journaux, quoi. Et vous savez quoi? Bah, ça m'a rendu super heureux. Ça m'a beaucoup apporté professionnellement, humainement. Ça m'a donné beaucoup de plaisir. Enfin, j'en avais déjà beaucoup avant dans ce que je faisais. Mais Twitch et vous m'avez apporté plein de choses. Alors ça sonne comme un au revoir. C'est pas du tout comme un au revoir. C'est pas du tout le dernier stream de l'année. Merci Sickness pour les 5 abonnements offerts à la commu. C'est adorable. Et donc c'est pas du tout le dernier stream de l'année. C'est pas du tout le dernier stream du tout. Vous savez que je viens plutôt du monde des médias traditionnels, mais je passe de plus en plus de temps sur Twitch. Là, récemment, j'ai lancé des nouveaux formats, comme bien sûr Time Out, qui va revenir, puisque c'est une émission qui sera pas régulière, mais ce jeu va revenir de façon événementielle. Donc il y a plutôt plus de choses à venir. Encore. J'ai vu le premier stream en replay, un grand moment, dit Babylonia. C'est drôle. Donc, on se retrouve. Là, il n'y a pas de Samplay pendant 15 jours. Hein. Samplay, l'émission du dimanche soir sur le jeu vidéo, revient. Ouais, je sais, Rare Unity, mais c'est pas, je ne suis pas propriétaire ici. C'est pas moi qui est tout agencé. Mais tu as raison sur le fond, sur l'histoire des rideaux. Donc, Samplay revient dans 15 jours. L'hebdo Etienne, on ne sait pas encore trop. La matinale, la revue de presse, bien sûr. Là, je pars en... Merci Zarakel, c'est gentil. Je pars en vacances demain. Genre une bonne grosse semaine en Franche-Comté dans ma belle famille. Je vais voir si... Bien sûr qu'on fait un petit Valorant tout de suite, hein, c'est pas la fin de ce stream. Je vais voir si il y a moyen de faire des petits streams légers ou de course à pied ou talk d'échange à la cool. Merci Nobito pour le 3e mois d'abonnement. Merci Goglo pour le 9e mois d'abonnement, j'avais pas vu. Je pars en guerre. Donc moyen de caler des petits streams quand même pour pas perdre le fil, parce qu'en fait une semaine ou 10 jours sans stream en vrai, c'est pas possible. Je trouve que c'est pas cool. Je vois qu'il y en a plusieurs qui partent en Franche-Comté, ça c'est cool. Olivier va peut-être se croiser là-bas. Que dit le papa Étienne devenu accro aux jeux vidéo à ces deux garçons qui voudraient en faire sûrement autant? Ça joue au jeu, hein. Malo 7 ans, il a été gamer avant moi, quoi. Voilà. Alors, de façon encadrée, accompagnée, bien sûr. Hein. Un peu d'écran, pas trop d'écran, un peu de jeux vidéo, pas trop de jeux vidéo, surtout pour un enfant de 7 ans. Mais il n'est pas en reste. D'ailleurs, sachez qu'à Smash, par exemple, on fait des compétitions familiales de Smash Bros. Avec Malo, donc 7 ans, sa maman et moi, et je me fais démonter. Quoi. Je suis systématiquement dernier. Est-ce que c'est un problème de réflexe? Est-ce que c'est un problème d'âge? Est-ce que c'est un problème de vue? Est-ce que c'est un problème de... Je n'y arrive pas. Quoi. Donc il faut que je vais tryhard discrètement en cachette Smash pour reprendre le dessus sur la famille. Ça n'est pas possible. Voilà. Donc des streams à venir, mais je ne sais pas encore lesquels. Et puis, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.